Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Comme chaque week-end, nous vous proposons de revivre les moments phares de la semaine passée avec pour orchestrer cette équipée sauvage, Mathieu Noël. Il est toujours entouré d'Eva Rock, des journalistes d'Europe 1 en compétition pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Et vous votez d'ailleurs sur les réseaux sociaux du lundi au vendredi. Ils ont toujours des sujets captivants. D'ailleurs, dans l'heure qui suit, on parlera notamment du super album Deluxe de Prince, sorti vendredi. Et puis de ce nouveau mal du siècle qui touche les jeunes générations, la solastalgie. Et puis du côté des invités, eh bien, on va retrouver, comme hier, l'écrivain Philippe Besson, la chanteuse Clara Luciani, le chanteur Garou, l'ex-membre du groupe Téléphone Jean-Louis Aubert et aussi Michel Denisot, premier invité de Mathieu Noël.
Invité qui repart souvent, il faut le dire, ébahi par mon talent et ma jugeote hors norme, comme Garou vendredi. Ah oui, Garou pour qui j'avais préparé un petit happening où je lui demandais de chanter. J'avais prévu une bande karaoké pour l'aider à trouver la tonalité, avant soudain de réaliser que, chanteur c'était son métier et que très probablement il était capable de chanter a cappella. Bref, un nouveau moment génie.
Parce que sinon je la fais a cappella puis je la sors un peu plus rapide, quoi. Sinon il y a tout.
Ah, t'as raison, ouais. Tu peux mettre, t'arrives. Ah oui, non, mais je me rends pas compte, t'arrives à le faire a cappella, bon, ça me paraît.
Ouais,
forcément.
La honte, comme on dit. Michel Denisot ressortira-t-il de cette émission aussi épaté par ma vivacité intellectuelle que Garou? Ce n'est pas dit. Michel, on continue d'évoquer votre vertigineuse carrière et votre film Toute ressemblance, qui sera en salle mercredi. Mais la compétition n'attend pas, et lui encore moins. Voici le plus américain des journalistes d'Europe, Jean-Philippe Ballas. Ça y est, ça commence à bouger outre-Atlantique en vue de la prochaine présidentielle. Et vous nous parlez ce matin d'un milliardaire en quête d'un nouveau défi. Pas Michel Denisot, un autre milliardaire.
Et vous allez voir que dans le genre Opération Commando, c'est pas mal. Vous entendez cette voix et cette petite musique.
Mike Bloomberg started as a middle class kid.
C'est typique du clip de campagne à l'américaine avec le piano, les images noires et blancs. La belle histoire du gamin de la classe moyenne qui s'est fait tout seul, qui a bâti un empire et qui s'appelle Orio, Michael Bloomberg. Il a 77 ans. Et c'est vrai que c'est un peu l'invité surprise de cette course à la Maison Blanche. Ça faisait quelques jours que la rumeur circulait, donc c'est désormais officiel. Depuis 24 heures et la diffusion de ce clip, Mike 2020, c'est comme ça qu'on dit maintenant, Mike est candidat à l'investiture démocrate avec de gros moyens parce qu'il vient de lâcher plus de 30 millions de dollars. C'est plus que tous les autres candidats. 31 millions pour être précis. De sa poche, comme ça, rien que dans des publicités qui vont être diffusées dans tout le pays. C'est un raz-de-marée pour tenter de se faire vite une place, parce qu'il part tard quand même dans les sondages, Michael Bloomberg. Il est derrière Joe Biden, derrière Elizabeth Warren, tous les autres qui sont déjà en course. Seulement voilà, il estime aujourd'hui qu'il est le seul en mesure de battre Donald Trump. C'est même son premier argument de campagne, battre Donald Trump. Et ça va donner une idée du flot de publicité négative, vous savez, des negative ads qu'on a à chaque élection américaine. Alors, c'est vrai que c'est souvent outrancier, c'est un peu bourrin. À chaque élection, vous avez des observateurs qui disent que ça va trop loin, qu'on dépense beaucoup trop d'argent là-dedans, qu'il faut assainir tout ça. N'empêche que, à chaque élection, on crève le plafond une nouvelle fois. C'est bien le signe quand même que, quelque part, ça marche. D'autant qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, c'est important, les super PAC, c'est les Political Action Committee. Alors les super PAC, pour faire simple, ça vous permet de dépenser tout l'argent que vous voulez pour votre candidat. Et là, le camp de Michael Bloomberg parle déjà de 100 millions de dollars dans les prochaines semaines. Bon, il faut quand même savoir qu'une campagne aux États-Unis, on fait de grands yeux, mais une campagne aux États-Unis, ce n'est pas une campagne en France. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de Paris à Limoges en TGV. C'est-à-dire que vous traversez des États qui sont grands comme la France, comme le Texas. Vous avez souvent Los Angeles à l'ouest, New York à droite. Et puis, c'est vrai qu'entre les deux, il y a un pays qui s'appelle l'Amérique. Donc, ça demande d'énormes moyens pour faire campagne, pour se faire connaître. On se souvient tous notamment de l'avion de Donald Trump qui se posait comme ça sur les bases. Et c'est aussi un peu le paradoxe, parce que même si les Américains vous jurent le cœur sur la main qu'ils n'aiment pas forcément les signes extérieurs de richesse comme ça, ils savent aussi que la fortune de Michael Bloomberg, elle est estimée à plus de 55 milliards de dollars, on le disait tout à l'heure, donc 30 millions, c'est vraiment une paille dans son budget. Il est classé 9e classement des plus grosses fortunes au monde par le magazine Forbes. Il a aussi un argument que Donald Trump n'a pas, c'est qu'il était maire de New York, Michael Bloomberg, à plusieurs reprises, donc il a une expertise sur le dossier. Alors, il est aussi complètement à part dans le paysage américain parce qu'il a été républicain, puis il a été indépendant et maintenant il est dans l'investiture démocrate. C'est rarissime, c'est quasiment un cas unique. En tout cas, c'est vrai que sa candidature, c'est un petit coup de théâtre. Ça va faire peut-être bouger un peu les choses. Parce que c'est vrai que du côté des démocrates, en ce moment, ça ne bouge pas des masses. Alors, beaucoup de gens disent que de toute façon, il n'arrivera pas jusqu'au bout.
Pourquoi ?
Moi, je ne ferai aucun commentaire parce que c'est exactement ce qu'on disait de Donald Trump.
Oui, ça ressemble, voilà. C'est le même profil, à gauche, entre guillemets.
Mais 77 ans, ils n'ont pas envie de prendre la retraite, tous ces gens ?
Non, que vous racontez, Eva.
Eva vient de regarder Michel Denisot. C'était un très beau moment de radio, Eva. Heureusement que vous n'êtes pas noté, heureusement qu'elle est hors compétition. Sinon, là, vous aviez moins un point directement. Justement, moi, j'allais poser une question à Michel Denisot qui était beaucoup plus innocente, beaucoup plus sympathique. C'est vous, Michel Denisot. Est-ce que vous avez déjà songé à vous lancer en politique ? Vous êtes cinéaste maintenant, pourquoi pas ? Pourquoi pas homme politique après ? Vous pourriez encore.
Non, je pense que je le ferai jamais. Mais oui, ça, il en a été question quelques fois, comme toujours quand on a un peu de notoriété.
Tu parlais d'un dîner à Cannes. Mais Michel, vous devriez vous lancer en politique. Et hop.
Non, j'étais conseiller municipal de mon village il y a 30 ans, mais, ou 40 ans, je ne sais plus. Mais
c'était le sommet de notre vie politique.
Ouais, exactement.
Jean-Philippe Ballas, pour finir.
De toute façon, ça va être une campagne au-dessus de 70 ans, parce que Donald Trump en a 73, Elizabeth Warren, elle en a 70, Joe Biden encore plus.
Il n'y a pas de jeunes.
C'est comme au tennis.
Voilà. C'est pareil.
Il faut savoir que malgré tout, l'argent, ce n'est pas ce qui vous garantit la victoire, parce que Hillary Clinton, elle avait dépensé plus de 200 millions de dollars pour l'investiture démocrate. Ça ne lui a pas porté forcément chance.
Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Roch, bien sûr sa grande complice, et à présent l'un de nos correspondants en région pour nous mettre déjà dans l'ambiance de Noël. C'était vendredi dernier, lors de l'émission en public, avec Garou comme invité. Garou qui est de retour avec un nouvel album, Soul City, dans lequel il rend hommage à la Motown.
C'est ça aussi le nouvel Europe 1. Une fluidité éditoriale épatante. Alors, je ne vous poserai qu'une seule question, Garou. Êtes-vous prêt à mettre le petit Jésus dans la crèche ?
Oh là 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 ! Non, mais je vais détourner, je vais dire que j'ai très hâte de faire mes décos de Noël. Je ne sais pas si vous êtes fou de Noël, mais moi, je suis complètement dingue.
Moi, la crèche est déjà prête.
Et moi, ça va être partout des lumières de partout, des lasers dans les arbres enneigés. Non, mais pour vrai!
Ah ouais, c'est vrai?
Ah ouais, j'ai des lasers qui partent dans les arbres pleins de neige et tout. J'en mets partout.
Il en met partout. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, c'est le début de la saison des marchés de Noël, et à Marseille, qui dit Noël dit Santon. Eva, vous voulez faire votre vanne?
Oui, Santon sous la pluie. Voilà.
Bravo, superbe, merci.
C'est vrai.
La 217e foire au Santon vient d'ouvrir ses portes sur le Vieux-Port, exactement là où est né le Santon de Provence il y a plus de 2 siècles. Et cette année, sur la foire, il y a du rififi.
Et oui, parce qu'il y a un personnage en particulier qui fait encore beaucoup parler de lui, c'est le Santon Gilet jaune. Alors, il a été imaginé l'an passé au plus fort du mouvement par Titus, qui est un artisan santonnier d'Aubagne, lui-même sympathisant, hein, il ne s'en cache pas. Et son petit personnage, eh bien, il fait un véritable carton. Il en a vendu des centaines à 15 euros pièce, ce qui est assez cher hein, pour un santon. Oui. Mais c'est comme à la bourse, hein, finalement, y a une cote. Et en fait, le santonnier, il a détourné un incontournable de la crèche. Vous savez, le personnage du ravi, c'est celui qui lève les bras au ciel en signe d'émerveillement. Hein, vous voyez,
Nathalie.
Alors, vous savez que le ravi, c'est aussi un peu le simplet du village. Voilà. Donc, les gilets jaunes apprécieront. Mmh. En tout cas, notre santonnier a simplement eu l'idée de peindre son gilet en jaune en lui mettant entre les mains une pancarte revendicative. Et voilà, un an plus tard, comment se porte le gilet jaune façon terre cuite.
Ben, il se porte très bien cette année. Hein. Donc, il a fêté ses 1 an et il y a la femme qui est venue le rejoindre. Et voilà, avec sa longue robe, là, vous voyez. Guerrière, quoi.
Et elle brandit un panneau sur lequel il y a marqué quoi ?
Il y a marqué Macron démission. C'est des gens qui l'achètent pour faire des cadeaux, souvenirs, collectionneurs. Voilà. C'est parti dans le monde entier. Il y en a qui le gardent toute l'année sur une étagère, sur un comptoir de bar. C'est toujours lui qui règne sur le marché.
Voilà, la famille qui s'agrandit. Et l'année prochaine, eh ben, le santonnier imagine même des enfants gilets jaunes.
Oui. Bah, tout de même, Nathalie, on est loin de l'esprit de la crèche là, avec vos santons gilets jaunes.
Bah oui, très loin. Et ça fait d'ailleurs grincer les dents des puristes pour qui la crèche n'est absolument pas synonyme de politique ou d'actualité. C'est la nativité, la tradition, la culture provençale, avec des personnages comme le boulanger, le mouleur, le berger. Michel Bouvier est le président de l'Union des fabricants des santons de Provence. Il ne décolère pas contre son voisin.
Ça n'a rien à voir avec les santons. Les santons, c'est les métiers. Voilà, il faut se souvenir de ça, on a tout compris. Quand on fait le gilet jaune, c'est de l'opportunisme, c'est tout. S'il en vend, tant mieux pour lui. Mais enfin, on lui a un peu remonté les bretelles à notre dernière assemblée générale en lui disant qu'on ne doit pas afficher ses opinions politiques. La foire aux santons n'est pas là pour ça. En plus, à mon avis, c'est un santon éphémère, hein, parce que les gilets jaunes, ils sont réduits à une peau de chagrin.
Voilà, on sent l'exaspération. D'autant que les manifestations tous les samedis l'an passé ont failli couler la foire aux Santons, hein, qui fait quand même vivre 25 artisans. Des artistes qui espèrent, comme cadeau de Noël, obtenir l'indication géographique, le moyen de contrôler que les Santons sont bien fabriqués en Provence et pas en Asie, où on adore les copier.
Oh, évidemment.
Mais, made in China, ça va pas, non ?
Belle conclusion, Eva. Merci beaucoup, Nathalie Chevance.
Merci, bonne soirée.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
16h17, vous écoutez Mathieu Noël comme tous les après-midi sur Europe 1. Le week-end, retour sur ce que vous avez manqué. Aux côtés de Mathieu Noël, il y a bien sûr Eva Rock. Et puis, il y a toujours un invité. Jeudi, c'était l'écrivain Philippe Besson, l'une des plumes qui a participé au recueil de nouvelles 13 à table, au profit des Restos du Cœur.
Si je vous dis, Eva, qu'il est raffiné, lettré, journaliste, mais aussi sacrément rock'n'roll.
Moi, j'ai pensé à Yves Morosi tout de suite.
Non, alors, non, c'est l'écrivain Philippe Besson qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous faites partie du collectif d'écrivains ayant contribué à 13 à table, ce recueil de nouvelles qui paraît chaque année au profit des Restos du Cœur. Le thème de l'année, le voyage, ce qui tombe plutôt bien. Vous n'êtes pas du genre casanier, vous, Philippe Besson.
Hein. Non, moi, je suis plutôt du genre à bouger beaucoup, oui.
Vous avez beaucoup bougé dans votre vie. C'est d'ailleurs, paraît-il, on va y venir, mais à l'étranger, que vous avez découvert votre vocation d'écrivain. Moi, j'ai découvert ça.
Absolument, absolument, à Montréal.
À Montréal. Vous en parlez dans votre dernier livre, Dîner à Montréal. Eva.
Est-ce que vous avez payé pour être le premier, le premier.
Et non, c'est l'alphabet qui me vaut, vaut cet honneur. Absolument, on est classé par ordre alphabétique.
Ah, j'avais pas remarqué. Attends, voilà. Pour moi, tiens, bim.
Donc, je m'appellerais Zesson ou Tesson, ça serait, mais je serais beaucoup moins bien classé. Mais voilà, c'est juste ça. Non, non, sinon,
non,
c'est un hasard.
Vous connaissez que c'est un avantage d'être le premier sur la liste.
Oui, je sais pas. En même temps, c'est ça. Ça devient un étalon pour les autres. Si ma nouvelle est très mauvaise, ça permet que les autres s'en sortent mieux.
Moi, je retiens que vous êtes un étalon pour les autres. Oui. Une phrase que j'aime beaucoup et que je pourrais isoler éventuellement dans d'autres émissions. Le thème cette année de 13 à table, c'est donc le voyage. Vous nous emmenez en Californie.
Oui.
Pourquoi ?
Absolument. Alors, parce que c'est un endroit que je connais extrêmement bien. Cette route, qui est la route 1 qui va de Los Angeles à San Francisco, je l'ai beaucoup empruntée. Donc, j'avais envie de la raconter à ma manière en me mettant en même temps dans la peau d'une femme qui décide de quitter Point Loma où elle vit, qui est en sud, vraiment à l'extrême sud de la Californie, pour remonter vers Big Sur et parce qu'elle a quelque chose de précis à faire. Ça, on le découvre au moment de la chute.
Oui, il y a un twist assez fort, on ne peut pas trop le dire. Oui.
Mais c'est le principe des nouvelles, c'est qu'il faut toujours une chute un peu inattendue. Et j'avais envie de raconter ce périple qui est assez vivifiant et qui me plaît beaucoup.
Alors, ça peut paraître un peu, on rigole de ça, de 13 à table, chacun a donné une petite nouvelle. Mais pour un écrivain, écrire une nouvelle, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un engagement. On dit pour les Restos du Cœur, on dit oui, l'écrivain, c'est facile, il a écrit une nouvelle. Mais non, ça prend du temps dans votre vie. Il faut sortir quelque chose de beau. J'imagine que c'est vraiment un engagement.
En fait, c'est pas seulement du temps. C'est un exercice extraordinairement compliqué, la nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout penser que c'est un genre mineur. Pas du tout.
En France, on a tendance à le croire un petit
peu. Mais c'est pas du tout le cas.
On a un problème avec la nouvelle en France.
Absolument. Alors, pas du tout. On en lit très peu. Alors, c'est pour ça que c'est formidable, parce que du coup, chaque année, il y a au moins 200 000 personnes qui lisent des nouvelles grâce à 13 à table. Mais c'est surtout que quand on écrit des romans, on est habitué finalement à une certaine distance. On sait écrire 250 pages, on sait en écrire 500. Et quand effectivement, il faut concentrer sa pensée sur un temps court, sur quelques chapitres, et effectivement organiser quand même sa pensée, organiser une dynamique dans le texte et trouver une chute, c'est extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement réussi. On cite quelques-uns des co-auteurs, donc avec vous Philippe Besson, Françoise Bourdin, Michel Bussy, Adeline Dieudonné, Éric Giacometti, Yasmina Kadra, Véronique Ovaldé, enfin bref, beaucoup,
Nicolas
beaucoup
Mathieu,
talent.
Nicolas Mathieu, le Goncourt,
autre Goncourt, décidément, absolument. Pelle, Brochette, 13 à table, des nouvelles pour aider les Restos du Cœur. Votre nouvelle nous entraîne en Californie, aux États-Unis. Un pays que vous aimez profondément, mais aujourd'hui c'est aussi l'Amérique de Trump. Est-ce que ça vous fait mal au cœur ? Ça vous interroge ?
Alors d'abord, la Californie est une sorte de zone de résistance au sein de l'Amérique de Trump. C'est une terre très démocrate, un peu plus écolo que le reste du monde, etc. Bon. En même temps, l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas regarder ça avec du mépris ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai justement fait aussi un road trip il y a 2 ans dans tous les états du Midwest. Je suis descendu de Chicago jusqu'à la Nouvelle-Orléans, donc j'ai traversé le Kentucky, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, etc. Des états qui ont voté à 60-70% pour Trump et qui, je vous l'annonce, revoteront pour Trump dans un an. Cette Amérique, elle existe aussi. C'est l'Amérique des oubliés, des déclassés, de ceux à qui on n'a jamais parlé. New York et Los Angeles, qui sont des villes que j'aime beaucoup, ne sont qu'une autre Amérique. Donc ne méprisons pas ça. Et je pense qu'il est bien parti pour être réélu.
Alors justement, sans évidemment adhérer aux idées politiques de Trump, on comprend bien que ce ne sont pas les vôtres.
Non,
mais est-ce que
vous
faites partie, comme Bret Easton Ellis, l'écrivain que je crois vous aimez, dans son dernier livre, il dénonce un peu tous les bobos citadins des grandes villes américaines qui, non seulement sont contre Trump, mais le vomisse dans un sens qui peut être contre-productif.
Mais je suis absolument d'accord. Vous parlez de White, absolument.
Oui, je parle de White.
Quand il dit ça, je suis 100% d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de lamentation de idéologique, boboisante,
oui, genre
de
«
Ah
oh
là là, c'est très grave, quittons le pays, et ce monsieur est vraiment... » Certes, il est misogyne, raciste, sexiste, il a tout pour lui, ou tout contre lui, si je puis dire. Mais ça ne sert à rien de dire ça. Et puis en plus, il y a une forme de mépris social dans ce discours qui est absolument contre-productif, qui fait que les gens qui ont voté pour lui ont encore plus voté pour lui. Donc je pense que ce n'est pas le bon discours à tenir. Il vaut mieux... Alors, ceci étant, quand je vois les démocrates aujourd'hui qui s'affrontent pour concourir à la présidentielle, je me dis qu'on est mal barré quand même. Hein.
Et l'arrivée de Michael Bloomberg, par exemple,
ça ne changera rien. Un milliardaire de 77 ans, franchement, si on voulait vraiment aller encore plus à l'échec, on ne ferait pas mieux. Donc c'est un peu mal barré quand même.
Philippe Besson, vous êtes avec nous pour 13 à table. Ne l'oublions pas, votre nouvelle avec un twist surprenant à la fin nous attend au début de ce recueil qui va, donc, dont les profits iront au Resto du Cœur. La solidarité, ce n'est pas que des mots, c'est aussi un engagement. Philippe Besson est avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Écrivain talentueux, compagnon de route d'Emmanuel Macron, qui est pour vous Philippe Besson? Voici non pas un micro-trottoir trop gentillet, voici notre micro-trottrache. Désolé d'avance Philippe, on a tout laissé.
Je crains le pire. Philippe Besson.
Oui, il y a beaucoup de Besson, c'est pas un ministre. Philippe Besson, c'est pas un ministre.
C'est un aventurier, enfin je sais pas si c'est un type qui écrit...
Oui, vous m'avez dit Besson.
Je sais qu'il a écrit un livre sur Macron, il est très ami avec Macron. Il va sûrement pas faire la grève le 5.
Ouais, il y a les chaussures. Vous connaissez pas les chaussures Besson? C'est une marque de chaussures.
Oui, j'ai un copain qui s'appelle Besson d'ailleurs.
Il a une bonne plume, il est très aimé, et puis il a écrit des pièces de théâtre,
Il est pas journaliste aussi?
C'est Éric Besson, je crois, qui avait été ministre et tout ça là. C'est pas mon préféré.
C'est un écrivain, non?
Je l'ai vu à la grande librairie.
C'est peut-être pas Philippe, alors.
Oui, je pensais à Luc, voilà. Désolé.
Et oui, aventurier, ministre de Sarkozy, réalisateur de Nikita, nous recevons tous les Besson cet après-midi sur Europe 1.
Je peux être champion olympique aussi.
Vous auriez pu être tout à la fois. On entendait encore quelqu'un qui vous rapprochait d'Emmanuel Macron. C'est vrai que ce livre a été très marquant. Un truc rigolo, en préparant cette émission, j'ai lu, au bout de seulement 5 mois de présidence d'Emmanuel Macron, soit bien avant le début des Gilets jaunes, vous déclariez, je cite, « Maintenant, il faut que Macron soigne sa gauche ». Oui. Lol. Il serait temps qu'il la soigne un peu, d'après vous.
Oui,
vous lui en parlez?
Oui, régulièrement. C'est qu'il a été,
quoi,
il a été élu sur une espèce de promesse de gauche et de droite. Et c'est vrai qu'il a mené, au moins dans les premiers mois et les premières années de son mandat, une politique libérale qui est plutôt d'essence de droite. Donc moi, qui suis de gauche, je ne suis pas retrouvé, au moins au départ. Après, il y a eu un correctif qui est d'ailleurs lié aux manifestations et aux gilets jaunes, etc., puisqu'on a donné 17 milliards pour le pouvoir d'achat, etc. Donc ça, c'est bien. Mais fondamentalement, il a plutôt marché que sur une jambe au début. Oui.
Eva Rock ?
Il y a une dame qui, dans le micro-trottrache, parlait du 5 décembre, de la mobilisation du 5 décembre. Oui. Est-ce que vous comprenez la colère des gens et tous ces gens qui descendent dans la rue? On parle du service hospitalier, on parle de la police aussi qui n'en peut plus. Vous comprenez toutes ces colères?
Oui, moi je les comprends. Alors, je vais essayer de dire les choses. Je pense que c'est une bonne idée de vouloir faire un système universel de retraite, parce que je pense que ça gomme les injustices, et puis ça rend le système plus lisible, parce qu'aujourd'hui on a quand même un système imbitable. Bon, donc aller vers un système universel et aller vers un système plus facile à comprendre, c'est mieux. Mais je trouve que la façon dont on a communiqué sur ce sujet-là, dont on a organisé les choses, c'est vraiment fait pour mettre les gens dans la rue. C'est-à-dire que personne ne comprend rien aux tenants et aux aboutissants de cette réforme. Les gens ont peur de perdre. Et puis, par ailleurs, expliquer que les manifestations qui vont avoir lieu seraient des manifestations corporatistes, quand vous avez les étudiants, les médecins, oui, les infirmières, les avocats, les gilets jaunes, les gens de la RATP, les gens de la SNCF. Non, on voit que c'est un mouvement massif. Donc ça veut dire qu'il faut entendre ça très clairement. Donc il y a des inquiétudes profondes qui se manifestent. Il faut y répondre de manière intelligente et pas comme on le fait aujourd'hui, de manière un peu bourrine.
En attendant de manifester ou pas le 5 décembre, achetez rapidement 13 à table, recueil de nouvelles, dont une de Philippe Besson, au profit des Restos du Cœur. Les ventes sont déjà exceptionnelles.
Mais oui, parce que le recueil est donc numéro 1 des ventes poche. 34 000 exemplaires
carrément
ont déjà été vendus en moins de 2 semaines. Ça représente 136 000 repas offerts au Resto du Cœur.
Philippe Besson est passé prendre le thé sur Europe 1 cet après-midi. C'est bien agréable.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Deux heures pour se divertir et s'informer avec Mathieu Noël, Eva Rock, sa grande complice, et à présent notre spécialiste environnement, Anne Le Gall, en présence de Jean-Louis Aubert. C'était mardi sur Europe 1.
Tout de suite, je vous propose d'écouter notre première candidate au titre. Elle a chanté Téléphone. Elle a chanté Goldman. Elle a même chanté Bibi Fock.
Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques.
C'est dire son éclectisme. Belle compilation, hein, bientôt disponible chez Universal. Aujourd'hui, Anne Le Gall, vous nous parlez d'un mal nouveau psychologique, la solastalgie.
Voilà, solastalgie, ça vous fait penser à quoi ? Ça
pourrait être... Nostalgie.
Nostalgie.
Ouais. Nostalgie, oui.
Ouais. Alors,
cela, c'est peut-être la nostalgie du sol.
Du sol. Alors en fait, c'est l'angoisse liée au réchauffement climatique. Il ne faut pas chercher de racines
incroyable.
Grecques ou latines.
J'étais
en fait,
mal.
Ça vient de l'anglais. Oui. Ça vient de solace, qui signifie réconfort en anglais. C'est un mot qui a été inventé en Australie dans les années 2000. C'est en fait la peur de perdre son cocon, de perdre son chez-soi. Et on parle aussi d'éco-anxiété. Alors, par exemple, quand l'été dernier, la jeune chanteuse Angèle se met soudain à son piano après avoir lu un article dans la presse sur le réchauffement climatique, ça s'apparente à de la solastalgie.
Mais quand, mais quand, mais quand on se rendra compte du temps qui nous reste en fin de compte.
Voilà, elle a lu un article pas cool, elle a les boules, elle dit qu'on est dans la merde, sa vidéo a été vue 2 millions de fois.
Petite parenthèse pour nos auditeurs, si jamais dans la même saison je reçois Jean-Louis Aubert et Angèle, j'arrête ma carrière, je rends les clés.
Ah
et,
bon
et oui, je me retire, je me retire.
Peut... Attention, parce que moi j'ai très envie de rencontrer Angèle aussi.
Ah,
bah, donc...
on aurait pu organiser ça le même jour, ça aurait
été
très bien.
On fera un duo et on fera un live.
Bon, continuons, pardon Anne Le Gall pour cette digression.
Alors en tout cas, l'éco-anxiété, c'est plus courant qu'on ne pense, notamment chez les jeunes. Dans son cabinet de consultation, le docteur Stéphane Clerget estime que cette angoisse concerne un enfant sur cinq.
Ils s'inquiètent du fait qu'il n'y ait plus d'animaux, ils s'inquiètent de la pollution. D'ailleurs, ils peuvent dire à leur père ou à leur mère de rouler moins vite. Et certains peuvent s'inquiéter en disant qu'ils ont peur que le monde disparaisse. Alors à la fois, ces inquiétudes-là existaient déjà avant, c'est-à-dire que les plus jeunes avaient peur de la fin du monde, peur que la Terre explose. Simplement, là, c'est l'angoisse qui est en train d'occuper la première place. Est en train de passer, par exemple, devant les angoisses des attentats, hein, en tout cas en région parisienne.
Est-ce que c'est normal d'avoir cette angoisse qui monte ?
Alors, en tout cas, c'est logique parce que d'après les projections climatiques, un enfant qui naît aujourd'hui vivra avec 4 degrés de plus avant d'avoir atteint ses 70 ans. Ça signifie plus de canicules, plus de tempêtes, une production agricole modifiée. Ajoutez à ça la pollution, la perte de biodiversité. On comprend bien pourquoi, selon l'IFOP, 85% des Français sont angoissés par le réchauffement climatique. Et dernier chiffre paru hier, 40% des Européens de moins de 30 ans pensent qu'ils vont devoir un jour déménager à cause du réchauffement climatique. Donc l'éco-anxiété, en tout cas, elle est logique et elle est partagée. Maintenant, est-ce qu'elle est inquiétante ? Est-ce qu'on est en train de construire une société de dépressifs à cause de l'environnement ? Eh bien, en fait, non, m'a expliqué Stéphane Clerget. En tout cas, pour beaucoup de Français, l'éco-anxiété, en réalité, vient se substituer à des angoisses existentielles qui se seraient exprimées de toute façon.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette nouvelle angoisse, pour soi et pour ses enfants ?
Alors, tout simplement, les psychiatres conseillent aux parents aussi, quand on parle d'environnement, de parler des solutions et de demander à l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu ferais comme solution ? Enfin, qu'est-ce que tu apporterais ? On peut parler aussi des énergies renouvelables. On peut inviter l'enfant à tisser des liens avec la nature, à s'intéresser aux plantes, aux animaux, à aller se balader en forêt. Il faut se méfier évidemment des discours trop catastrophistes sur l'effondrement. Il faut se méfier des fake news. Et puis, les psys conseillent enfin de ne pas oublier de vivre au présent. Parce qu'évidemment, les enfants, avant tout, doivent jouer, apprendre à lire, à compter. Et à vivre en société.
Jean-Louis Aubert, vous vous sentez, vous, parfois solastalgique, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire ?
Mon fils est vraiment pas mal comme ça. Maintenant, je fais quand même confiance dans l'humanité. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. On s'est sorti de pas mal de pétrins.
Vous restez confiant ?
Ouais, il y a eu, dans les livres d'histoire, il y a pas mal de gens qui ont pensé à plein d'époques que c'était la fin du monde. Et à juste titre. Regardez s'il y a ces angoisses-là, si des mômes de 7 ans commencent à regarder si c'est bio ce qu'ils mangent, c'est quand même hyper positif. aussi, quoi. Peut-être c'est de l'angoisse, mais c'est quand même génial.
Absolument, il faut en fait faire de cette angoisse un moteur. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Greta Thunberg, puisqu'elle a fait une dépression après avoir vu un documentaire sur les ours polaires. Et c'est ça, en fait, qui a été le moteur de son engagement.
Merci beaucoup, Anne Le Gall.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Vous le retrouvez chaque après-midi sur Europe 1 et en bonus le week-end pour une compilation, c'est bien sûr Mathieu Noël. Alors lundi, il recevait Michel Denisot qui était venu nous parler de son premier film, Toute ressemblance.
Comme disait Depardieu dans Tenue de soirée en enlevant son peignoir.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
Michel Denisot, n'ayez pas peur, mercredi sort votre premier film Toute ressemblance avec Franck Dubosc et Jérôme Commandeur. En exergue, vous reprenez une phrase de Boris Vian qui dit « Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée ». Alors, voyons voir un petit peu ça. Michel, qu'est-ce qui est vrai dans ce film ou pas? Avec Eva, on l'a vu.
Oui, et forcément, on se pose des questions.
80% des choses qui paraissent tellement incroyables qu'on se dit ça, c'est inventé, c'est de la fiction. Tout est vrai.
Tout est vrai. J'ai simplement. La phrase de Boris Vian résume bien ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que j'ai fait un mensonge avec la vérité et j'ai utilisé que des choses vraies que j'ai twistées, mélangées pour créer des personnages de fiction, mais qui en fait sont une compilation de la vérité.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines personnalités qui vous ont déjà passé un petit coup de fil parce qu'elles ont vu le film là, je proteste.
En fait, j'ai fait venir à la fin du film des vrais présentateurs du 20h qui prouvent bien que tout est vrai. Et donc, pour justement dire, c'est pas moi, mais c'est l'autre. Ils vont tous réagir comme ça. Je connais ce monde-là, j'en fais partie. On voit les autres, mais on se voit pas soi-même.
Est-ce que la scène, il y a quand même une scène où on va vous poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est la fameuse scène où le présentateur du JT.
Je suis très surpris que vous posiez la question sur cette scène.
Mais je vous la pose quand même parce que nos auditeurs ont le droit de savoir.
Je sais.
Le présentateur du JT, n'est-ce pas, présente un JT un peu particulier puisque sa femme lui fait un petit cadeau.
C'est son anniversaire.
C'est son anniversaire. Ça se passe, disons que l'action se passe sous la table du présentateur du JT qui doit garder son
cadeau. C'est un cadeau surprise de sa femme.
Un cadeau surprise qui lui fait bien plaisir. Mais est-ce que cette scène, c'est pas possible. Enfin, on imagine les équipes, on imagine. Enfin, mais
est-ce que je le dise plus clairement là, parce que peut-être que les gens ont pas du tout compris de quoi vous parliez.
Je pense qu'il y a que vous qui êtes prude pour point de ne pas ce qu'on évoque.
Il faut dire les choses précisément, là, c'est un peu sans queue ni tête.
Voilà. C'est une fellation sous le bureau. Voilà, vous avez le son, comme ça vous pourrez l'utiliser contre moi. Ça, c'est une chose qui a donc existé, dont vous avez été témoin ou que vous aurez raconté
C'est une chose dont j'ai été témoin.
Alors, vous avez travaillé avec
Yves Mourouzi. Vous avez commencé avec Yves Mourouzi.
Moi, j'ai pensé à Yves Mourouzi tout de suite, mais bon.
Je ne dirais pas. C'est du cinéma, c'est pas un documentaire. Ouais. Donc, faites travailler votre imagination.
Comment vous avez convaincu Alain Delon de venir faire un featuring, comme on dit, dans la musique dans votre film? Il n'avait plus tourné depuis super longtemps.
Oui, bon, il est venu une journée sur le tournage amicalement. En fait, je l'ai au téléphone de temps en temps. Et
c'est un ami?
J'ai une bonne relation avec lui. C'est un peu excessif toujours d'utiliser le mot ami, mais j'ai une relation de confiance, voilà, donc on se parle normalement déjà. Et puis je l'ai au téléphone, il me dit « Ah, tu fais un film ?» Je dis « Oui, bon, moi, j'ai pas tant parlé à toi avec la carrière que t'as, je débute, je fais un film. » Et puis, dans la conversation, il enchaîne pas tout de suite. Bon, et alors je balbutie un peu comme je suis en train de faire avec vous, et puis à un moment donné, j'ai dit « Mais... Ben, » il dit « Mais t'as qu'à m'écrire une page, ça me plaît, je le ferai. » Donc du coup, j'ai écrit une page et il est venu et voilà. Il était en plus, c'était le dernier jour du tournage. C'était très émouvant de le voir aussi heureux, alors que quand même avec la carrière qu'il a, c'est quand même autre chose. Et très très heureux de retrouver un univers de cinéma.
On va pas révéler le contenu de la scène parce que c'est une des surprises du film, mais on peut dire qu'il a un très beau texte.
Oui, tout à fait.
Très beau texte.
Oui, je pense que je peux avoir un prix avec ça.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Alors, c'est certes votre premier film, Michel, mais vous avez eu droit à une masterclass, paraît-il, avec Martin Scorsese. Racontez-nous ça.
C'est-à-dire que quand il y a 4 ans, il était question que je fasse un film, j'ai continué à faire des émissions, et notamment à Cannes, et puis aussi j'ai fait une émission pour Canal avec des réalisateurs, l'émission s'appelait Profession, donc j'ai posé aux réalisateurs toutes les questions que je me posais. Il y avait Nakache Toledano, Alain Chabat, etc., Emmanuel Berco, et puis à Cannes, je me suis retrouvé il y a 3 ans, je crois, avec Martin Scorsese. Je vais faire une interview de 10 minutes. Enfin, vous savez, le temps est compté. Donc, j'ai posé des questions très simples. Où place-t-on la caméra? Enfin, des choses comme ça que je me posais.
Vous avez pris des notes?
Non, mais c'est enregistré. Ouais. Donc, ça va. Donc, au lieu de faire 10 minutes, on a fait une demi-heure. Et je me suis servi, comme j'ai pu, de quelques choses que j'ai entendues, mais de façon très, très modeste.
Alors, mercredi, évidemment, vous serez stressé, j'imagine, Michel. Mais rien. Je crois que vous serez un peu stressé. Mais rien par rapport à ce qui vous attend maintenant. Voici le moment toujours délicat où vous devez affronter la meilleure d'entre nous. Depuis tout à l'heure, vous la regardez fatalement. Les plus grandes figures du journalisme féminin défilent sous vos yeux. Françoise Giroud, Anne Sinclair, Christine Ockrent.
C'est fou, hein, c'est ma sœur jumelle.
Oui, voilà, à peu près. Voici Michel Denisot, l'heure du quiz contre Évaroc. Cher Michel, pour notre quiz aujourd'hui, nous avons choisi de rendre hommage à vos talents qui sont multiples, pour ne pas dire infinis, puisque vous avez brillé dans l'univers du foot, dans le PAF, interviewé les plus grands acteurs, vous êtes une légende du journalisme. Bref, n'en jetez plus, nous allons jouer à tiercé-carté VIP. Principe simple, nous allons vous diffuser des voix d'un footballeur, d'un acteur, d'un animateur télé, d'un journaliste, et vous allez devoir les reconnaître. Oulala. Mais attention, les voix s'enchaînent très vite. Interdiction de prendre des notes. Ah. Eva aussi. Eva aussi va jouer avec le même conseil. D'ailleurs, elle va commencer tout de suite. Voici votre tiercé-carté VIP. Prête, Eva ?
Oui.
C'est parti.
Chez pièces et pneus.com, on fournit des pièces auto d'origine à des prix vraiment bas.
Il y a un moment où toutes les phrases qui ont par conviction religieuse, je ne...
Dans l'Indre, dans une forêt.
Tu sais ce qui se passe quand tu ouvres la bouche ? Ça sent la pissotière !
Alors, Guy Roule pour le premier, ouais. Le deuxième, je n'ai pas reconnu.
Vous voulez qu'on réécoute ?
Ouais.
Il y a un moment où toutes les phrases qui ont par conviction religieuse,
Nagui, ouais, je ne l'avais pas reconnu.
Un demi-point, parce que...
Ouais. Le troisième, c'est Michel Denisot. Et le quatrième, la pissotière, je n'ai pas reconnu non plus.
Comment ça, vous ne savez pas la pissotière ?
Non.
Vous vous foutez de ma gueule, j'utilise des sons de lui
mais
tous les jours.
Ouais, je sais.
Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, Eva.
Mais c'est pas moi.
Tous les jours de chaque émission, un son de Michel Blanc, évidemment.
Ah, c'est Michel Blanc, d'accord, ok.
Ah, vous me désolez parfois.
Ouais, je sais.
Alors attention, Michel Denisot, vous ne pouvez plus reculer.
C'était pas trop difficile, c'est vrai, c'est moi qui ai un peu.
Vous avez 2 points et demi. Points et demi, c'est pas trop mal. Tiercé carte VIP pour Michel Denisot, c'est parti.
Plus les gens vous aiment, plus le nombre de gens qui vous détestent augmente aussi. Que je sois l'animateur que l'on aime détester, ça me fait rire.
Salvador Dali, noblesse oblige, mène grand train dans son palais parisien. Ses amis se prennent trop pour des courtisans, ses admirateurs n'ont plus le temps d'être ses amis.
Ah, je suis englué à ce petit pot de colle qui n'a pourtant rien d'extraordinaire. La tête dure et la fesse molle, le contraire de ce que j'aime.
Oh, Champs-Élysées, para.
Un beau medley.
Alors, Michel. Là, c'est dur. Hein.
Alors, en 2, il y avait Arthur. En 3, Chancel.
Oui,
Jacques Chancel.
Oui, Jacques Chancel.
Oui.
Et en 4, j'étais parti sur Jean-Pierre Mariel, mais...
Vous avez déjà 3 points, Michel. Il reste à trouver le dernier qui chante Champs-Élysées. Ça vous rappelle rien ? Ça, c'est votre côté foot qu'on a sollicité, là.
Oh, Champs-Élysées, para.
Ouais, ah, ça doit être un... C'est pas un joueur brésilien ?
C'est un mec Cabu, non ?
Non, c'est un mec Cabu, ouais.
C'est Franck Ribéry.
C'est
Franck Ribéry. Moi, je me souviens de cette vidéo, oui, Champs-Élysées, effectivement.
Ah.
Alors donc, ça fait quand même 3 points pour Michel Denisot et seulement 2,5 points pour Eva Roque.
Donc Eva, j'ai encore perdu.
Vous avez encore perdu.
Voilà.
C'est Michel qui remporte le quiz. Michel, il paraît que vous n'étiez pas très doué pour les études. Alors, je ne sais pas si c'est une légende. Ça me paraît un peu gros. Vous auriez redoublé 3 fois la classe de première, 2 fois la terminale. Vous repassez le bac à 3 reprises sans jamais l'obtenir. Vous dites, vous auriez dit, quand j'ai terminé le lycée, j'avais des enfants.
Non.
Racontez-nous la vérité.
Des petits enfants. Ouais.
Des petits enfants.
Non. C'est vrai que j'ai triplé la première, doublé la philo, que j'ai pas de bac.
Mais comment c'est possible, Michel Blanc?
Parce que je faisais rien.
Oui, j'en foutais en fait. Mais vous vous disiez pas que ça pouvait être un.
Non, moi, ça m'inquiète beaucoup, mais après coup, quoi. Sur le coup, je n'étais pas inquiet vraiment, parce que j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Et c'était une période où il y avait une espèce d'insouciance générale. On était dans les années 60 et quelques. Il n'y avait pas l'angoisse d'aujourd'hui dans le monde, quoi. Il y avait, je crois, 200 000 chômeurs. J'ai fait des petits boulots quand j'avais besoin d'argent, des petits boulots légaux. Et puis, j'ai su ce que je voulais faire. À 15 ans, j'ai fait un stage dans un journal local. Et j'ai dit, c'est ça ce que je veux faire. Donc, je retournais au journal dès qu'il n'y avait pas de cours. Et voilà, je m'étais dit, je m'en sortirais.
Mais clairement, aujourd'hui, un parcours comme le vôtre, c'est plus possible.
C'est plus compliqué, ouais, parce qu'il faut des diplômes pour maintenant.
Donc vous auriez été bloqué un moment. J'aurais
sûrement vécu autrement.
Vous auriez bossé pour le bac.
16h-18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
16h52, nous sommes avec Mathieu Noël, Eva Roque et avec à présent Fred Goati, dont on va découvrir le sujet. On va parler musique. C'était jeudi sur Europe 1 et en présence de l'écrivain Philippe Besson. Il veut bien partir.
Philippe Besson, est-ce que vous aimez Prince?
J'aime beaucoup Prince.
Et bien ça tombe très bien. Fred Goetti, vous l'aimez peut-être encore plus. Et si on veut redécouvrir Prince ou le découvrir tout court, l'album idéal vient de sortir.
Il fait la tête.
Non mais moi je vais retourner en arrière. Tiens, pas jusqu'à dans les années 30 en Espagne, mais 38 ans en arrière, le 9 octobre 1981 précisément, le jour où Mick Jagger appelle Prince et lui dit « Prince, j'aimerais que tu viennes faire la première partie d'un concert des Rolling Stones ». Alors là, Prince, il dit « C'est génial, ça y est, ma vie va changer ». Il arrive, il s'installe avec son groupe, et là, catastrophe, au bout d'un quart d'heure, crie, insulte, il ne joue que trois titres, il repart tout de suite, il est vexé, il prend l'avion, il retourne à Minneapolis dans sa ville natale, il veut pas revenir. Mick Jagger l'appelle, « Come on, Prince, come back », et tout, « Viens, reviens », et tout. Enfin, l'imitation de Mick Jagger n'est pas terrible.
Moyen.
Et puis, on voit pas trop, surtout pourquoi Mick Jagger aurait parlé en français avec l'accent anglais.
Mais je traduis, Prince, c'est mieux. C'est pour nos auditeurs. Voilà. Alors, Prince, allez, ok, je reviens. Le lendemain, c'est encore pire. On balance des tomates, des oranges, des chaussures, du poulet, et même une bouteille de whisky qui passe à quelques centimètres de la tête de
Prince.
Mais
qu'est-ce qu'il jouait, Prince, à l'époque?
Sa musique. Mais vous savez, il était noir, il faisait du rock. Et ça, ça n'allait pas de soi pour le public des Rolling Stones. On va pas refaire l'histoire de l'Amérique. Mais
ça, c'est intéressant. Voilà. Parce qu'on n'y pense plus.
Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Bah, va falloir que je compose des chansons peut-être un petit peu plus rock. Si je veux toucher aussi ce public-là, il faut que je fasse un effort. Alors, en 84, il va mettre tout le monde d'accord avec une chanson que tout le monde connaît. Mais le 27 octobre 1982, deux ans avant, il sort son premier chef-d'œuvre et là, il commence de toucher un public beaucoup plus large, notamment avec une chanson, tiens, comme par hasard, un petit peu plus rock, qui s'appelle Little Red Corvette. Alors cet album, qui est donc le premier vrai chef-d'œuvre de Prince avant Purple Rain, bah, il ressort demain en version deluxe. Alors il y a un CD, un DVD, mais surtout, il y a 24 chansons inédites. Et là, je voudrais vous parler des archives de Prince. Parce que ça, les archives de Prince, ça fait fantasmer tout le monde depuis des années. Alors, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de morceaux qui circulent sous le manteau, comme on dit. C'est-à-dire sur le net, jadis, c'était des cassettes, enfin voilà. Donc, à chaque coup que Prince était interviewé, eh bien, enfin, rarement, hein, parce qu'il était très mystérieux, on lui demandait, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces morceaux inédits? Tiens, écoutez, par exemple, sur la télé américaine, il y a 5-6 ans, Sherry Shepherd, qui était une journaliste, grande fan de Prince, bah lui demandait ça.
You have a vault of hundreds of unreleased songs. Are you ever going to release them and let us hear?
One day, someone will release them. I don't know that I'll get to release them.
Alors, vous avez un vault, des archives avec des centaines de chansons inédites.
Un coffre-fort.
Est-ce que vous les sortirez un jour pour qu'on puisse les écouter? Et Prince, embarrassé, lui répond, un jour, quelqu'un les sortira. Mais je ne sais pas si moi, je les sortirai. Ouais. Parce que de son vivant, Prince n'a strictement jamais...
C'est qu'il est considéré imparfait alors peut-être?
Moi je dirais plus que ses archives, pour lui, ses centaines, voire peut-être ses milliers de chansons, c'était comme son subconscient musical, si vous voulez. Et tout ça, c'était comme un peu la face cachée de son iceberg musical. Mais, parfois, sur scène, il lui arrivait de chanter
une chanson
inédite, comme notamment au New Morning, qui est un club de jazz parisien, il y a 9 ans de ça. Il s'est mis à chanter une chanson incroyable qui s'appelle Purple. Pas Purple Rain, Purple Music.
Mais vu la réaction des gens dans la salle, dont vous étiez, j'ai l'impression, Fred Goetti,
je le crains.
On a l'impression que vous connaissiez cette chanson, vous étiez excité comme des puces.
Eh ben oui, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chansons de Prince circulaient, mais de manière illégale. Okay. Et il s'amusait parfois à un petit peu taquiner ses fans, il faisait des clins d'œil.
Vous
la connaissez, celle-là, un bande de coquins. Donc, Purple Music, c'est une chanson, c'est peut-être la chanson la plus mythique de Prince dans celles qui sont inédites. Eh bien non, elle n'est plus inédite puisqu'elle sort,
elle sort sur cette
dans le coffret, mais hélas. J'ai essayé, mais on n'a pas le droit de la faire écouter puisque sort demain. Mais j'ai des relations. Après d'âpres négociations, j'ai quand même réussi à en extraire une du fameux coffret. On va l'écouter tout de suite maintenant. Alors vous allez voir, on a l'impression qu'on est dans une église. Non, on est dans un studio. Prince est seul face à son piano. Implore-t-il Dieu? Non, il implore une jeune femme qui ne veut pas le rappeler. La chanson s'appelle « Mais pourquoi tu ne me rappelles pas ?»« How come you don't call me anymore ?» Attention, sortez les mouchoirs. Down on my knees, begging you please. It's just one lousy dime, baby. Why don't you call me sometime? Why can't you just pick up the phone? Oh, I can't stay being alone. Why am I too charging me? Why am I too
talk to me, yeah. Oh, why must you treat me like a, why must you treat me like a sh- kill me, why don't you, baby?
Alors, ce que vous allez faire, Fred Goetti, c'est qu'avec vos relations, vous allez m'offrir cet album, comme vous avez fait avec Kyle Eastwood la semaine dernière. J'étais très content, je l'ai écouté tout le week-end dernier.
Je n'y manquerai pas.
Ça sent bon les points pour vous.
Je ferai tout mon possible.
Mon cher Fred. Philippe Besson, Prince, vous avez dit que vous aimiez. Oui. Comment, est-ce que vous faites partie des gens comme moi, je l'avoue, qui sont un peu nostalgiques d'une certaine époque de la musique, ou vous restez ouvert au nouveau courant, à ce qui se fait aujourd'hui?
Oui, moi je suis arrivé à un âge où, hélas, je suis un peu nostalgique, c'est ça le problème.
Je crois qu'on en est tous là.
Même si j'écoute ce qui se fait, mais j'ai tendance, oui, à préférer certaines, justement, de ces icônes-là, parce que c'est des empreintes aussi dans nos émotions, dans nos mémoires affectives, donc on ne peut pas s'en déprendre.
Oui,
donc ça reste des balises dans nos jeunesses aussi, c'est parce que ça nous renvoie à ce qu'on a été.
C'est
donc,
vrai, et on était mieux.
Oui, c'est ça, on était mieux, c'est ça le problème. Il y a des moments plutôt agréables qu'on a vécu. Et puis un truc aussi que je voudrais dire, ouais, très futile sur Prince, mais pardon de le dire, c'est comme quoi, quand même, quand on fait moins d'1m65, on peut être sacrément sensuel et puer le sexe. Non, franchement, c'est quand même pas
c'est
mal.
Sûr.
Non, mais... Et la fille en question, elle devrait rappeler là, quand même, après la chanson.
Bon, elle a dû regretter.
Elle a rappelé, je pense. Bon, d'accord, ça va.
Nous sommes là pour fêter la réédition collector avec 5 nouveaux titres de votre album Sainte Victoire. Cet album avec gourmandise, mais vous le savez ici, la compétition donne le tempo de notre émission. Voici venir notre troisième concurrent du jour, Alain Siroux, dont vous adorez les lunettes, je crois, Clara.
Ah bah oui.
Ouais, c'est vrai que ça lui va bien, en
j'adore.
Fait.
J'adore.
Hein. Alain, vous connaissez la musique de Clara Luciani ?
La la, oulala.
Oui, alors, bon, je sais pas pourquoi je pose la question en même temps. Bon, un réflexe reptilien, autant pour moi. Alain, vous êtes notre spécialiste ciel et espace. Ça tombe bien, la communauté scientifique commence à prendre très au sérieux cette histoire de météorite qui pourrait nous tomber sur la gueule.
Oui, la situation, elle est connue, je dirais, depuis quelques années. C'est qu'il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu sur la Terre à cause de... sans doute deux événements.
Vous dites sans doute. On n'en est pas sûr, ça, encore ?
Bah, pas seulement. Il y aurait eu une collision avec un astéroïde et puis sans doute, vraisemblablement, des explosions, des éruptions volcaniques importantes.
Vraiment,
mais il y a 65 millions d'années. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été parfaitement remplacés, mais bon. Et aujourd'hui, la situation, elle est la suivante. C'est que nous savons que ces collisions sont régulières dans l'histoire de la Terre et qu'elles auront encore lieu. Donc, on a détecté, finalement, tous les astéroïdes à peu près... 1 km et plus de diamètre, sauf qu'il en reste environ 30 à 40 000 inconnus qui font quelques centaines de mètres de diamètre. Et quand vous regardez en termes de physique ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un géocroiseur, c'est un astéroïde.
Rien que le nom fait peur.
Qui ouais. peut rentrer en collision avec la Terre, ça veut dire menacer une grande partie des activités sur la Terre. Bon, alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que cet événement est extrêmement faible en termes de probabilité. C'est peut-être, je dirais, 1 sur 10 000.
1 sur 10 000, mais c'est pas si faible que ça. On a plus de chances que de gagner au loto.
Oui, bien sûr, évidemment, mais ça, on sait que ça arrivera. Mais on sait aussi que nous sommes aujourd'hui la seule génération
à pouvoir faire
capable
face.
De l'éviter. Donc
mais
l'idée,
comment, alors,
c'est...
Alors,
la première chose qu'on est en train de faire, c'est de recenser tous les objets qui sont dangereux dans le ciel. Ça, c'est un gros boulot. Donc, dans quelques années, on aura réussi à ça. Mais on essaie de devancer l'événement en se disant, et si quelque chose nous menace, qui fait, je ne sais pas, 300 ou 400 mètres de diamètre, qui fonce vers la Terre, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, la réponse est claire, on prie. C'est tout. On peut rien faire d'autre. Un
on
objet
se cache.
De. Non, mais c'est clair.
Mais on peut pas faire comme dans Armageddon. Là, alors, on envoie Bruce Willis et puis il creuse un puits et il fait exploser le truc de l'intérieur.
Alors, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire, on va en discuter aujourd'hui, mais il y a plusieurs solutions pour éviter ça. La première solution, c'est de ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel.
Ah, ça passe par. J'allais vous le dire.
C'est-à-dire, vous mettez un objet à côté de cet astéroïde qui fonce vers la Terre et c'est comme une corde qui tirerait. C'est l'effet de la gravité. Vous déviez centimètre par centimètre et vous évitez finalement la Terre. Bon, il faut s'y prendre peut-être 30 à 40 ans à l'avance. Ce qui est quand même assez long et assez compliqué.
Ça va être compliqué.
La deuxième solution, c'est d'envoyer un impacteur, c'est-à-dire de collisionner ce qui arrive, l'astéroïde qui arrive, pour le dévier légèrement. Alors, ça, c'est ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Avec une mission dont je vais vous parler qui s'appelle ERA et dont l'objectif est justement de tester ça. Donc on va proposer aux ministres européens aujourd'hui une mission conjointe avec les États-Unis, qui eux ont déjà décidé de le faire, c'est d'envoyer un bloc en quelque sorte, un bloc de fonte de 500 kilos qui devrait heurter une petite lune d'un astéroïde. L'astéroïde est génial, il s'appelle Didymos. Didymos, il fait 780 mètres de diamètre et il est entouré d'un petit caillou qui tourne autour qu'on a appelé Didy Moon. Je trouve ça génial.
Pourquoi vous nous faites la cage aux folles là, pour illustrer cette, cette séquence astéroïde
c'est vrai,
là.
L'objectif,
Michel
c'est,
Serrault, là.
C'est de taper avec
sur
Didy Moon pour voir comment Didy Moon est dévié et de valider en quelque sorte les théories de déviation d'astéroïdes et se dire que peut-être que ça serait une solution dans le futur, bon, à condition de savoir de quoi il est composé. Si je vous envoie, Clara, une boule de neige, vous allez rire. Si je vous envoie une boule de pétanque, vous allez moins vous marrer.
C'est vrai.
Donc, ça dépend de la composition.
Jusque-là, on suit votre raisonnement scientifique imparable.
Donc, ça dépend de la composition. Donc, identifier la composition, savoir comment on peut dévier ça. Et ça, ça demande du temps. Donc, les scientifiques demandent aujourd'hui un budget de 200 millions d'euros. Ça peut paraître énorme, mais c'est pas grand-chose pour partir dans l'espace, pour tester une déviation un peu à la Bruce Willis, si vous voulez. Sauf que Bruce Willis, il fait exploser le truc. Et nous, on n'est pas du tout intéressés, parce que exploser, ça veut dire diviser par le nombre de morceaux.
Bah oui, mais les petits morceaux sont indolores. Un morceau d'un mètre qui tombe sur la
Terre...
Vous
expliquerez ça à celui qui se prendra un morceau de 50 mètres sur la tête, c'est-à-dire l'équivalent... ouais, on va détruire Versailles, on va dire ça comme ça, quoi. Bon, donc, c'est un risque de long terme. On ne sait pas si ça peut arriver aujourd'hui ou dans 1000 ans, mais ce dont on est sûr, c'est que ça arrivera et qu'on est capable d'arrêter ça.
Eh bien, je vous dis merci Alain Siroux.
Super.
Moi, ça fait peur quand même, mais Clara, je vous rassure, moi j'ai un abri anti-atomique chez moi en Suisse. Je vous dis ça comme ça.
Mais
si jamais
pas
un
du
astéroïde
tout, vous l'avez
qui arrive,
transformé en cave à vin.
Oui, il y a beaucoup de vin dedans, mais il se ferme toujours. Il est homologué. Il est homologué, la dernière fois j'ai vérifié. Il
se vérifier. Un abri atomique qui résistera à un astéroïde. Mais...
Il est très solide, mon abri anti-atomique.
On verra.
Cette phrase peut avoir un double sens. Comment vous l'avez travaillé cet album? Il paraît que ça s'est fait globalement chez vous, avec, m'a-t-on dit, beaucoup d'implication, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'alcool.
Beaucoup de plaisir surtout. C'était vraiment une partie de plaisir. C'était important que je le fasse chez moi, parce que ça fait un bout que je travaille sur cette grange à musique, qui est une espèce de vieille grange qui est tout finalement rénovée. Ouais, c'est chez moi au Québec. Et au bord du lac, il y a une forêt derrière, un parc national derrière, c'est extraordinaire. Et les barbecues, on était dans un esprit festif et il y a des instruments de partout. J'ai des vieilles guitares, donc on s'accrochait une vieille Gibson des années 50 et tout, pour recréer ces vieux sons-là. Et surtout pour la partie de plaisir qu'on a eu à faire avec mes musiciens et Alex Finkin, le réalisateur qui est débarqué de Paris, que je connaissais pas. J'ai fait une rencontre exceptionnelle avec ce mec-là. Il connaît tout sur la montante, puis il sait la jouer comme il sait la réfléchir. C'était mon petit Barry Gordy.
Alors sur cet album, vous dites « Je me suis surpris en tant que chanteur comme peut-être jamais dans ma vie ». Ça, c'est... Pour nous, public, c'est difficile à croire. Vous avez une telle carrière. Vous vous surprenez encore en chantant.
Vraiment. Sur ça, j'ai été même bluffé, je dirais, parce qu'il y a des choix de chansons qui me faisaient peur. Les chansons qui figurent là, c'est vraiment les chansons que j'ai eu envie de faire, mais il y en a plusieurs que je croyais que j'allais abandonner, parce qu'il y a beaucoup de passages de voix de tête, de falsetto, qui est un terme qui te fait passer de la voix puissante à...
Pour monter ça, c'est en du yodel, c'est du yodel autrichien, ça.
Ouais, c'est ça.
Vous le tenez bien.
Et je pensais ne pas être capable de le faire à plusieurs reprises. Et finalement, tout est passé comme une lettre à la poste. C'était facile, à ma grande surprise.
Eva?
Et c'est vrai que quand on écoute votre album, il y a une douce nostalgie qui nous envahit, parce que c'est des titres qu'on a tous entendus à un moment donné. Vous, c'était les voix de votre enfance aussi? C'était des chants que vous avez écoutés quand vous étiez déjà enfant?
Bien sûr, c'est de la musique qui m'a bercé. C'est de la musique que j'ai respecté au point où j'aurais pas pensé y toucher un jour, parce que j'adore les racines de cette musique et j'adore ce que ça a fait par la suite, l'évolution de la suite. C'est la house, c'est la deep house organique, et ça, j'adore ça.
Mais attendez, j'ai une petite question là-dessus. Vous dites que vous la respectiez tant, cette musique, que longtemps vous n'avez pas pensé la chanter. Mais quand vous avez démarré dans les bars, vous ne chantiez pas ce type de musique?
Je faisais de la rhythm and blues, mais il n'y a aucune des chansons qui sont sur l'album, mis à part My Girl, que j'avais fait dans une soirée avec les Temptations. Sinon, les autres chansons, c'est que des chansons que j'avais pas osé attaquer à l'époque.
Heureusement qu'il a osé. Sa voix était faite pour ça, il reprend les plus grands tubes Motown. Garou passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
De Notre-Dame de Paris à The Voice, qui est pour vous le plus français des Québécois? On est allé vous poser la question dans la rue, malgré le froid, et il faut croire que rien que le nom de Garou vous a réchauffé.
Garou, bien sûr, très connu, surtout dans les contrées québécoises, hein, mais également en France, bien entendu.
Beau gosse, quand même, avec une très belle voix, voilà, très, très chaud, très belle.
Ça fait partie de ma jeunesse.
Un fêtard, je pense.
Non, dans la vie, ça doit être quelqu'un d'assez calme, en fait, de poser, assez vrai. Ouais, le côté loup-garou, tout ça, bel homme. Hein.
Grand, baraqué.
Il était avec Laurie aussi pendant tout un moment, mais c'est fini.
Ah bah, physiquement, c'est pas le bossu de Notre-Dame, hein. Non, il est. Bah, c'est le beau gosse, quoi. C'est le beau quinca, voilà, le blondinet, quoi.
Je vous aime beaucoup, Garou, et vous êtes un beau garçon.
Garou, le Québécois.
Vous avez l'air généreux, qui aime la famille, qui aime les gens.
Bah, c'est Garou, le Québécois.
Et continuez dans cette lancée, je vous souhaite beaucoup de chance.
Bon, alors je vous dis, on vous a noté 2306, hein, au cas où. Hein, là, évidemment,
comme on disait... on a voyagé un peu dans le passé.
aussi. Alors en tout cas, une chose est sûre, ça nous arrive parfois sur certains invités, mais c'est rare, c'est cette sympathie que vous suscitez à l'unanimité, sympathique et sincère. Est-ce que les gens ont raison de vous voir comme ça, ou en fait vous êtes un salaud dans la vie, hein, c'est quand même, vous avez...
Pas du tout. Et de plus en plus, je me cache dans la forêt parce que je deviens méchant. Donc je pars dans ma forêt et je me bats avec les animaux et tout, donc je reviens avec le sourire si possible.
Alors Garou, ici, mon réalisateur a une vilaine manie pour se foutre de ma gueule. Dès que je suis un peu trop mièvre avec un invité, il me balance une musique de film érotique ukrainien pour souligner le fait que je lui cire les pompes. Tant pis, je me lance. Garou, en me penchant sur votre parcours et vos déclarations dans la presse, je dois l'avouer, je suis en train de devenir fan de vous. Oui, mais tant pis si ça agace les cyniques qui se cachent derrière la vitre de la régie. Fan de vous, car vous dites que, et je vous crois, vous n'avez jamais eu l'obsession de réussir. Dans ce métier, il y a beaucoup d'artistes qui sont tout le temps en train de vérifier leurs chiffres, en train de se demander quel coup ils pourraient faire, qu'est-ce qu'ils pourraient plaire au public. Et on a l'impression qu'il y a une authenticité chez vous qui fait que vous avez toujours suivi ce que vous aimiez faire, mais pas avec une obsession de réussir.
J'ai plutôt l'obsession de calmer le truc, parce que comme quand j'ai commencé Notre-Dame, ça a été la folie instantanée. Et même avant ça... Ce que vous n'avez pas connu, c'est les 6 ans de bar où j'avais plein de propositions de gens qui venaient me voir de maison de disques, de managers et tout. Et non, je voulais pas, j'étais pas sûr de vouloir faire ça quoi, dans la vie. Mais l'important dans la vie, qu'on sache où on va ou pas, c'est de trouver un équilibre dans ce qu'on fait.
Et il y a quelque chose que souvent quand on est une star, on profite de son statut de star dans les restos. J'ai lu des interviews où vous dites qu'au contraire, vous, ça vous gêne ça. Vous n'aimez pas être traité différemment d'un autre parce que vous êtes connu, ça vous aide.
Souvent, je faisais le rapport avec le dentiste. Je me disais, mais pourquoi les gens n'attendent pas le dentiste à la sortie de son bureau ou son truc? En disant, mais c'est extraordinaire, il a sauvé ma dent! Je vous adore! Je fais que chanter des chansons, pour vrai!
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Roch et avec à présent le monsieur innovation d'Europe 1, Anis Mbida, dont on va découvrir le sujet. C'était lundi, en compagnie de Michel Denisot.
Il est peu probable que pour exprimer sa joie à un moment de l'émission, Michel Denisot s'exclame tout à coup comme Garou vendredi. Michel Denisot, ensemble on évoque votre premier film qui sort mercredi, une plongée vertigineuse dans les coulisses de la télé et surtout des égos de la télé. Mais justement, ici aussi, les égos sont bien trempés, notamment celui de notre prochain journaliste en compétition aujourd'hui. Il est notre MacGyver, spécialiste innovation d'Europe 1. Ça faisait longtemps qu'il rêvait de cette innovation-là.
Une application qui permet de mesurer la qualité de son organe.
L'autre truc qu'on avait dit, la cryogénisation, là, parlez-nous plutôt de ça, la cryogénisation aux urgences.
Oui, parce que c'est une info vraiment que j'adore, hein, c'est quand la réalité rattrape la fiction. Est-ce que vous vous souvenez de films comme Alien, comme 2001 d'Odyssée de l'espace? Vous savez, où il y avait les passagers qui étaient cryogénisés pendant 20, 30, 40, 50 ans, et ils étaient, l'organisme était bloqué pendant un certain temps, et quand on les réveillait, c'est comme si rien ne s'était passé, ils repartaient comme en 40. Et bien, c'est exactement ce que viennent de faire des chercheurs du CHU du Maryland aux États-Unis. Ils ont mis l'organisme d'un patient en pause pendant 2 heures, donc le cœur arrêté, et ils ont réussi à le ramener à la vie. Et ça va changer énormément de choses aux urgences, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un arrive en arrêt cardiaque, je sais pas moi, une blessure par balle ou bien une blessure par arme à feu, les médecins ont très très peu de temps pour intervenir. Vous savez que si le cerveau n'est pas oxygéné pendant 5 minutes, il peut y avoir des séquelles complètement irrécupérables, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir très vite, et puis en général les chances de survie sont à peu près de 5%. Mais si on arrivait à mettre les fonctions vitales en pause pendant 2 heures, eh bien ça donne le temps au médecin d'intervenir, de soigner la personne avant de relancer le cœur et donc de lui donner des chances de survie qui sont bien plus importantes.
Vous m'avez mis une relance, mais j'ai mille questions qui me viennent.
Mais je vous en prie,
déjà,
allez-y.
Comment
allez-y.
Ça marche? On cryogénise la personne. Et l'autre question à laquelle vous répondrez ensuite, c'est le cerveau, il va pas être. L'afflux sanguin ne va pas arriver au cerveau non plus s'il est cryogénisé. Ça
et
va pas.
Justement, il n'est pas cryogénisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas congelé. Parce que sinon, on ne pourrait pas intervenir. Hein. Vous savez, avec le scalpel, c'est un peu compliqué quand il y a un corps qui est complètement gelé. En fait, on le refroidit au maximum, on refroidit l'organisme au maximum. C'est-à-dire qu'on remplace le sang par un liquide à 10 degrés.
Comment ça, on remplace le sang par un liquide à 10 degrés?
On transfuse.
Mais tout le sang.
Tout le sang, bah oui, la transfusion, c'est exactement ça. On draine le sang et on remet un sang à 10 degrés, dans une solution à 10 degrés. Ouais. Ça va arrêter le cœur s'il n'est pas déjà arrêté. Ouais. Ça va aussi faire en sorte que le cerveau soit à son fonctionnement le plus minimal. Hein. Ça va limiter l'activité cérébrale, ça va limiter toute l'activité cellulaire. Il y aura besoin de moins d'oxygène et donc il y a besoin de moins de sang pour que le cerveau fonctionne. C'est ça un peu la grande. Alors comme ça a l'air très simple quand on se dit on draine le sang, on met le sang, etc. Simple. Mais ça fait des années que les scientifiques essayent, hein, comme en science-fiction, et c'est la première fois qu'on a réussi à le faire pendant 2 heures sur une personne, et surtout qu'on a réussi à la ramener à la vie.
Alors, est-ce qu'il y a une limite de 2 heures? C'est une barrière infranchissable? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer mettre l'organisme en pause pendant 10 ans, par exemple?
C'est toute la question que tout le monde se pose. Hein. Si vous savez qu'il y a plein de gens qui se font congeler, hein, cryogéniser, parce qu'ils estiment que la science va pouvoir les réanimer un petit peu plus tard. Et donc, les chercheurs, ils ont réussi déjà à mettre en pause pendant 3 heures. Sur des cochons. Pour les hommes, ils ont fait pendant 2 heures. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus que
au réveil, on est bien ou on est un peu...
Eh bien, c'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, ils assurent qu'ils ont... Alors, on ne sait pas. Le problème, c'est que les détails d'études seront connus l'année prochaine.
Ah,
on ne sait pas combien de personnes ont été testées.
Et dans quel état?
On ne sait pas combien de personnes sont mortes, mais on sait qu'il y en a une qui a survécu au système et qu'elle est en parfaite santé. La question qu'on se pose maintenant, c'est quelles sont les séquelles exactement? Parce qu'on sait congeler, on sait cryogéniser, il n'y a pas de problème. Le gros souci, c'est quand on réveille la personne, quand on la réchauffe progressivement, il y a un phénomène très classique hein, qui se passe, c'est que quand on relance la circulation sanguine, eh bien les cellules finissent par être détruites ou à s'inflammer. Donc c'est une opération qui est extrêmement complexe. Plus on prend de temps avant de relancer la circulation, plus on a ce risque-là. C'est pour ça qu'ils se sont limités à 2 heures. Donc on attend beaucoup des résultats de cette étude l'année prochaine pour savoir s'il y a des séquelles sur les personnes. Mais dans tous les cas, même si que la personne soit vivante, alors qu'elle avait 5% de chance de vivre après un cœur arrêté, une arme à feu, c'est déjà colossal comme progrès scientifique.
Michel Denisot, est-ce que ça vous fascine? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que vous faites partie de ces stars? Est-ce que vous faites partie de ces stars qui aimeraient être cryogénisées pour présenter le grand journal en 2100?
Même la question pour le poisson Findus, quoi.
Le réveiller à la fin.
Alors, Michel Denisot, si on vous cryogénisait demain, ce qui serait con vu que le film sort mercredi, ça rend pas le bon timing, mais imaginons, on vous réveille dans 10 ans. La télé existe encore, d'après vous? La télé telle qu'on la connaît?
C'est très difficile, ça va tellement vite... Bon, moi, ça fait 50 ans que je suis dans ce monde-là, donc ce monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il est. Enfin, j'ai connu toutes les époques, j'ai démarré avec le noir et blanc, c'est vous dire. Donc, dans 10 ans, je ne sais pas du tout. Je pense, aujourd'hui, déjà, la télévision doit se reconstruire elle-même par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense qu'elle doit renforcer sa propre identité, c'est-à-dire dans le sérieux par rapport et ne pas courir derrière les réseaux sociaux. Après, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas ce qui se passera dans 10 ans.
Eva. Mais alors justement, vous qui avez tout vécu, est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur les 5 dernières années, il y a eu une forme d'accélération des changements de format, de contenu à la télé et sur les autres écrans?
Oui, d'abord, il y a moins de moyens à la télévision, parce que les ressources publicitaires maintenant sont diluées, elles vont ailleurs aussi beaucoup, et ça pose aussi des problèmes à la presse écrite et à la télévision, donc ça change la donne, donc il y a moins de moyens pour faire les choses et c'est un peu le sujet de mon film aussi, quoi. C'est une époque. Enfin, on peut toujours dire tous les jours que c'est la fin d'une époque. C'est tous les jours
Bien
la
sûr.
Fin d'une époque.
Ouais, ouais.
Mais bon, je la marque. Mon film est un film d'époque. C'est un film d'aujourd'hui. C'est pas d'hier ni de demain. Il se passe aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, à la fin, on voit que une star de télé qui fait dans mon film, elle fait plus que dans la réalité, qui fait 15 millions de téléspectateurs. Le jour où elle chute sur les réseaux sociaux, elle fait beaucoup plus.
Ouais, ouais.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Il est 17h28, dernière demi-heure en compagnie de Mathieu Noël sur Europe 1. Mathieu Noël qui recevait mardi Jean-Louis Aubert à l'occasion de la sortie de son double album Refuge.
Eva, si vous deviez résumer les années 80 d'un mot?
On va dire cannabis.
Ah oui, ça c'est vraiment toi. Moi, tu vois, c'est plutôt téléphone. Bon, voilà. Jean-Louis Aubert nous accompagne cet après-midi. Votre nouvel album Refuge vient de sortir. Un album qui s'ouvre sur 7 chansons.
Ne m'enferme pas. Toi, ne m'enferme pas en dehors de toi, ne m'écrase pas.
fais des petits pas. Viens jouer avec moi.
Qu'est-ce que je l'aime cette chanson, pardon.
Oui, mais c'est pas la seule sur l'album qu'on aime, Eva, mais on va essayer de limiter le côté midinette.
Oui,
on va se rendre professionnel. C'est une très vieille chanson, Jean-Louis, c'est quoi son histoire? Vous nous la racontez?
Vieille, c'est pas sympa de lire ça.
Mais c'est une chanson en tout cas que vous, bah c'est, vous avez composée longtemps.
C'est, elle est toujours quand je veux faire sortir un album. Ouais. Elle est toujours là, et elle m'attendait. Et là, elle m'a interpellé, parce que j'ai dit, mais comment... quelqu'un de 19 ans a pu écrire une chanson comme ça. Comment à 19 ans, t'étais loin de quoi déjà? Après, quelquefois, on dit que j'ai eu une âme d'enfant ou que je suis naïf. Et en fait, pour avoir un peu arpenté la vie et rencontré des gens très importants, je me suis trouvé beaucoup moins naïf qu'eux. Mais je crois qu'on a tous en nous un enfant qui est en fait notre ancêtre, qui dirige encore nos vies. Même quand on a 64 ans, comme j'ai. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit la maturité de l'humain, c'est de faire les choses avec le sérieux d'un enfant qui joue. Et effectivement, pour avoir été un enfant un peu solitaire dans la sous-préfecture de mon papa, je m'inventais des jeux. Et je pense que ce jeu que j'ai inventé d'être musicien, de faire du rock et tout ça, ben, ça m'a bien servi, parce que sinon, je serais peut-être assis avec un copain que j'ai dans ma rue. Attendre la main.
Vous avez justement réfléchi à ce qui se serait passé pour vous si le succès n'avait pas été au rendez-vous. De téléphone en 76, le décollage.
Déjà, on se posait la question en 74, je me souviens, avec Louis dans sa 4L et 6, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer?
Vous disiez quoi avec Louis Bertignac à cette époque-là?
C'est ça, si on n'y arrive pas, il n'y a que ça qui nous intéresse. Mais en fait, on se trompait. C'est-à-dire que maintenant que cette porte s'est ouverte, tout m'intéresse. J'aurais bien aimé être chroniqueur comme vous.
Il vous connaît bien. Mais donc Charrier, moins un point pour Charrier. Mais un métier conventionnel, parce que là vous parlez encore de nos métiers, on fait des métiers un peu particuliers. Est-ce que vous auriez pu être sous-préfet comme votre papa?
Peut-être pas à l'heure actuelle, mais bon, parce qu'ils n'étaient pas de l'ENA à l'époque, ils étaient plus des littéraires.
Je ne savais pas, ça c'est intéressant. Oui, votre père c'était un littéraire, voilà, qui avait étudié le grec et tout ça.
Il parlait grec, ouais.
Et il n'était pas formaté, quoi.
Non, c'est le sous-préfet Auchan, il était plus poète que sous-préfet, mais oui, j'aurais bien aimé être journaliste, être médecin, être avocat. Dupond-Moretti, c'est chouette, acquittateur. C'est top, quoi.
C'est vrai.
Ouais, il s'est fâché avec son coma. Non, bon, enfin bon.
Si, vous pouvez, avec Patrick Balkany, oui.
Ah oui, ils sont fâchés, oui.
Ça sentait le roussi.
Ça sentait le roussi dès le début des audiences. J'ai beaucoup aimé le nouvel album de Jean-Louis Aubert. Alors, comme j'ai le bras long, je lui ai dit de passer prendre le thé.
Percuté, chamboulé, chahuté, baladé, valdingué, je crierai. J'aime la vie, j'aime la nuit avec toi. Parfois, je m'aime aussi.
C'est vrai que le son est bon, hein.
Mais oui.
Avec le temps, Jean-Louis Aubert, on a l'impression que vous délaissez le rock quand même pour la pop. Il y a beaucoup de ballades dans cet album. Ça, c'est un cheminement réfléchi ou bien c'est un instinct comme ça que vous suivez?
Comme j'ai dit, peut-être j'écoute des musiques plus calmes. J'écoute pas mal de reggae aussi. En fait, aussi, après la tournée des Insus, j'avais pris une bonne dose de décibels.
Vous avez besoin de calme, en fait.
Mais c'est comme ça. Mais il y a aussi le piano qui s'en mêle. Mais j'aime bien la musique violente. J'aime moins les albums récents avec des groupes qui rentrent dans un studio, qui font 3-4 avec des guitares saturées. J'aime bien quand c'est un petit peu alambiqué. C'est normal, il y a des nouvelles machines, on entend des nouveaux sons. La musique est plus verticale qu'horizontale, mais ça, je vous expliquerai ce qu'on sait.
Oui,
quand
parce
on
que,
aura plus
parce que là,
temps.
Vous voyez bien dans mon regard que la verticalité de la musique m'échappe un petit peu. Eva Rock.
Alors, est-ce que vous saviez quelle musique vous écoutiez le 15 juin 1987 au New Morning?
Vous êtes bien renseigné, vous.
Le 15 juin 1987 au New Morning.
C'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, un musicien que vous admirez beaucoup. Exactement.
Bien sûr.
Et vous souvenez quel titre il a fait notamment?
Je me souviens qu'il a joué avec son papa.
Ouais, et il avait joué Just My Imagination,
oui,
et Sex Machine aussi.
Oui, tout à fait. C'était dingue cette soirée. Il jouait pour son plaisir et pour notre plaisir. Ça va en général ensemble.
Refuge, son nouvel album est disponible. Jean-Louis Aubert passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1. 16h-18h, l'équipée sauvage.
17h36, nous sommes toujours avec Mathieu Noël, Eva Rock. L'équipe est sauvage, c'est tous les jours, même le week-end. En rediffusion et mercredi, eh bien, Mathieu Noël recevait Clara Luciani pour la réédition de son premier album.
Une émission dont, vous le savez, les audiences sont bonnes, mais la direction était très claire là-dessus. Il nous reste encore à reconquérir les jeunes. Les 16-25 qui, selon les études, ne se reconnaissent pas tellement en Eva Rock lorsqu'elle déclare en rentrant dans le studio...
Dès que je rentre en studio, j'ai le nez qui coule.
C'est pour ça aujourd'hui, nous nous lançons à la reconquête des jeunes grâce à une invitée née en 1992, date à laquelle Mathieu Charrier buvait déjà du rhum arrangé en chantant.
Et là, merguez parti, sous cas de la braise.
Et oui, Clara Luciani, 1992, apogée du Club Dorothée. Vous avez échappé à ça, ça vous a permis 20 ans plus tard de composer ça.
Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être.
Votre album Sainte Victoire, déjà disque de platine, ressort avec 5 nouveaux titres. On continue de l'écouter ensemble. Mais vous le savez, Clara, la compétition n'attend pas. Et lui, encore moins. Mathieu Charrier, on est mercredi, on parle cinéma et on parle d'un film très attendu.
Oui, je voulais revenir sur les coulisses de la fabrication du roman, puis du film Chanson douce qui sort donc aujourd'hui, qui vient de sortir. Alors en quelques mots, juste pour vous situer, c'est l'histoire d'un jeune couple qui recrute une nounou pour s'occuper de ses deux jeunes enfants. Nounou qui va prendre, vous savez, de plus en plus de place dans leur vie, jusqu'à commettre un geste terrible que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas vous divulgâcher. C'est comme ça que l'on dit spoiler en français.
C'est vrai. Alors déjà, ce qu'il faut dire, Mathieu, c'est que cette histoire est basée sur un terrible fait divers.
Oui, qui s'est déroulé à New York en 2012. Deux enfants ont été retrouvés morts, poignardés par leur nounou, qui s'appelait Madame Ortega. Elle avait ensuite tenté de mettre fin à ses jours, mais elle a survécu, a été condamnée à la prison à perpétuité. Alors ce fait divers, il a inspiré Leïla Slimani, qui s'est dit, mais qui est responsable finalement? Est-ce que c'est les parents qui laissent leurs enfants toute la journée à une nounou? Est-ce que c'est cette nounou qui souvent est elle-même déracinée et trouve ainsi une nouvelle famille? La société aussi, peut-être, qui peut engendrer des nounous tueuses? Bref, elle en a fait un roman tellement complet, et malgré le fait quand même qu'il ait fait flipper tous les parents, qu'il obtient le prix Goncourt, révèle Leïla Slimani au grand public et se vend à plus de 500 000 exemplaires.
Et c'est là que Karine Viard se dit, il faut que je joue ce rôle.
Exactement, parce que Karine Viard, elle raconte assez souvent qu'elle en a marre, vous savez, que tout le monde la prenne pour la bonne copine. C'est vrai qu'elle a une image gentille et bienveillante, Karine Viard, dans l'opinion publique, parce qu'elle a fait beaucoup de comédies. Elle, elle dit, c'est pas forcément ce que je suis. Elle avait d'ailleurs adoré, elle le dit très clairement en interview, elle avait adoré jouer la mère d'une jeune fille victime de pédophilie dans Les Chatouilles. Au passage, si vous n'avez pas vu ce film, allez-y. Et donc, elle se dit, il faut que je joue cette nounou terrible. Donc, elle appelle un ami producteur, elle lui dit, viens, on va aller voir Leïla Slimani, on va acheter les droits. Elle les obtient et puis elle confie la réalisation à Lucie Berletot, même si My Wayne, figurez-vous, avait été pressenti dans un premier temps pour réaliser le film.
Et donc le film ressemble vraiment au livre?
Eh bien oui et non, parce que cet acte terrible que commet la nounou dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, c'est au début, c'est la première page. Oui. Mais dans le film, c'est à la toute fin. Alors
oui,
pourquoi
on est un peu au courant de l'histoire, c'est comme de Titanic, remarquez.
Oui,
Titanic, ça a bien marché.
Vous êtes au courant, mais l'idée c'est justement de dire que les gens qui n'auraient pas lu le livre peuvent vivre ce film comme un thriller en attendant un petit peu le dénouement.
D'accord.
Et puis la réalisatrice, elle m'a aussi expliqué avoir envisagé de tourner les deux versions, mais dans un livre, malgré ce qu'elle fait cette nounou, vous arrivez à vous attacher, à essayer de comprendre dans les pages qui suivent. Or, dans un film, c'est différent. Si dès la première image, vous êtes choqué, ben, vous allez la laisser en dehors du film, la nounou. Vous n'allez pas essayer de comprendre sa psychologie, de comprendre pourquoi, essayer de vous attacher à elle. Donc, c'est tout l'intérêt de ce film, c'est d'essayer de comprendre ce qui la pousse à commettre l'irréparable. C'est pour ça que dans le film, le début du livre arrive à la fin.
En quelques mots, il est bien le film?
Il est génial parce qu'il joue sur tous les sentiments. Déjà, il y a la mise en scène qui est très intéressante parce que la réalisatrice, elle place l'action dans un appartement, vous savez, bobo, un petit peu comme le vôtre, Mathieu, très coloré, bourré de références à la pop culture. Et donc, ça tranche avec le drame qui est en train de se nouer. Et puis, bien sûr, quand même, ça nous pose beaucoup de questions. Nous, parents, qui confions nos enfants toute la journée à des jeunes nounous et puis qui, du jour au lendemain, pouvons décider que finalement, bah, en fait, il va rentrer à l'école.
C'est,
ou finalement,
c'est très dérangeant
plus besoin.
Pour les parents.
C'est très dérangeant pour les parents. Et puis, c'est vrai qu'aussi, souvent, ces nounous, c'est des jeunes femmes d'origine immigrée, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de racines, beaucoup de familles en France, et donc qui peuvent s'attacher à votre enfant comme à leur propre enfant finalement, donc le jour où vous leur retirez. Donc voilà, c'est un film qui nous interroge sur beaucoup de questions sociétales, avec quand même un thriller très très haletant, que vous ayez lu le livre ou non, je le dis, parce que ceux qui ont lu le livre connaissent bien sûr la fin. Mais
on aimera
dites,
aussi le film.
Mais oui, c'est génial, c'est comme Titanic, on sait qu'il va couler, mais on adore le film quand même. Donc voilà, allez-y, chanson douce.
Il y a un bateau.
Belle comparaison.
Voilà, c'est ça, Eva, vous avez tout compris.
Eva Rock, merci beaucoup Mathieu Charrier. Clara Luciani, c'est peut-être un peu loin pour vous, la maternité. Est-ce qu'avec le succès, tout ça, vous pensez un jour à faire un enfant? C'est quelque chose qui trotte dans votre tête ou pas du tout?
Bah, pour l'instant, je me vois plus faire un deuxième album, quoi. Mais c'est une sorte, non, mais c'est une sorte de maternité. En fait, c'est vraiment, enfin, je peux pas vraiment comparer. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais j'ai l'impression que finalement, c'est un processus assez assez similaire. Et là, j'en suis à ma, comme j'aime le dire, à ma première échographie.
Vous dites, j'ai peur que le rêve s'arrête, que si je m'octroie des vacances, plus personne ne soit là à mon retour. Vous avez peur qu'on vous oublie en quelques mois?
Ouais.
Mais vous pensez vraiment que c'est possible ?
Bah, je suis un peu traumatisée de ça. C'est vrai, c'est ce que je raconte dans ma chanson Nue, quand je dis « peur que la chance me quitte ». J'ai tellement dû galérer pour en arriver là que finalement, je crois que j'ai un léger traumatisme, quoi, et que j'ai l'impression qu'un matin, je vais me réveiller et que tout aura disparu. C'est bizarre.
Vous avez aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, vous disiez en tout cas que vous aviez le syndrome de l'imposture. Vous avez l'impression de piquer la place de quelqu'un de meilleur que vous. Qui, franchement ?
Je peux vous en citer des centaines et des centaines, à commencer peut-être par mon propre père, qui n'a jamais pu vraiment vivre de la musique alors que...
Qui aurait mérité de
pouvoir. Oui, vraiment.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
On reste avec Mathieu Noël et Varrock et avec à présent l'un des correspondants d'Europe 1 dont on va découvrir le sujet. C'était lundi en présence de Michel Denisot.
Michel Denisot pour la sortie de son premier film. Ça s'appelle Toute ressemblance, comme dans la fameuse formule Toute ressemblance avec des personnages réels ou ayant existé serait fortuite. On a déjà vu, Michel, que c'était en fait une blague, ce titre, puisque Toute ressemblance n'est pas du tout fortuite dans ce milieu de la télévision. Michel Denisot, est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné dans la vie ?
Organisé, oui.
Organisé, c'est pas pareil. Est-ce que quand au feu rouge piéton, vous vous arrêtez ou parfois vous traversez ?
J'ai fait des progrès.
C'est vrai.
Et bien, maintenant, je fais beaucoup plus attention que je ne le faisais avant. Voilà.
Vous êtes moins tête brûlée que dans vos jeunes années. Eh bien, ce respect du feu rouge est très différent, figurez-vous, d'un pays à l'autre. Il en dit long sur l'état d'esprit d'une population. Bonjour Arthur Mbaché.
Rouge, piéton. Bonjour Mathieu, salut tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à trancher une question étonnante. Est-ce que nous nous sentons plutôt macaque ou mouton quand on est face à un feu rouge ou un passage piéton ? La réponse se trouve dans une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l'Université de Strasbourg. Ça bosse.
C'est ça. Et d'abord, écoutez ces deux chiffres incroyables sur le taux de respect du bonhomme rouge. À Nagoya, au Japon, moins de 5% des gens traversent alors que le petit bonhomme est rouge. En France, précisément ici à Strasbourg, on est à 80% de non-respect. Bref, ici, le truc ne sert quasiment à rien.
Vous nous avez vendu, Arthur, du macaque et du mouton. Là, on ne voit pas le rapport pour l'instant.
Alors, c'est le deuxième enseignement des travaux de l'éthologue strasbourgeois Cédric Sueur. Vous savez, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, y compris le vôtre, le mien, y compris humain, quoi. Ce chercheur, donc spécialiste du macaque, travaille aujourd'hui sur les piétons, en particulier sur les groupes de piétons qui attendent au feu. Alors, vous avez le premier type qui dit « Allez, tant pis, je traverse ». Comment réagissent les autres ? Macaque ou mouton ?
C'est ça qui va être intéressant avec les Français, c'est-à-dire que chez les Français, il y en a un qui va partir et on ne va pas regarder les autres si on décide de partir, quel que soit le nombre d'individus qui est restant. On part, voilà. Alors que chez les Japonais, on en voit un qui part et puis on voit les Japonais qui sont se regarder entre eux, il y en a un d'autres qui se décide de partir, puis d'un seul coup, on va avoir une phase où on sent que tout le monde décide de partir en même temps et là, tout le monde part en même temps, en fait. Mais ils se sont regardés avant et ils se regardent en se disant « est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?» Et on a ces phases à un moment donné où tout le monde décide de partir. C'est des comportements qui sont assez similaires à ce qu'on peut observer justement chez les animaux, avec plus le côté primate chez les Français et plus le côté très mouton, très cohésif chez les Japonais.
Et donc ces recherches, Arthur, pourraient mener à quel type d'application ?
Alors des dispositifs pour nous inciter à respecter, on l'espère, un peu ce fameux bonhomme rouge, sachant qu'un tiers des accidents impliquent des piétons. À Strasbourg, il va y avoir des tests, un chronomètre par exemple qui affiche le temps qui reste à attendre, alors ça existe déjà un peu par-ci par-là, des panneaux avec des images dissuasives avec fort impact psychologique, des trucs inventés par des spécialistes du comportement. Il paraît que ça peut jouer sur notre respect ou pas du feu. En Chine, il existe un système incroyable. Un capteur repère que vous êtes en train de passer du trottoir à la chaussée.
Oula.
Et là, il y a un mini poteau qui vous vaporise, qui vous balance de l'eau sur les jambes. Ça vous rince complètement les jambes. Vous avez des vidéos de ça sur internet, ça a l'air plutôt dissuasif.
Ah, ça serait bien pour vous, Eva. Parce que vous êtes une petite coquine. Vous traversez toujours, déjà en dehors des passages cloutés.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est parce que vous êtes de Nice. Alors, à Nice, c'est peut-être la ville où on conduit le plus n'importe comment en France. J'embrasse nos amis niçois. Je suis moi-même partiellement niçois. Mais là, Eva, un petit pchit-pchit pour Eva. Très bonne idée. Bien joué, Arthur Elmachin.
Donc, à Strasbourg, il y a 80% de coquines.
Et c'est une info Europe 1. Merci, Arthur Elmachin.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Il est 17h47, les dernières minutes en compagnie de Mathieu Noël, les moments qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur Europe 1. Et jeudi, Mathieu Noël recevait l'écrivain Philippe Besson pour parler du livre « Très à table ».
Philippe, vous publiez une nouvelle dans 13 à table, recueil de nouvelles justement au profit des Restos du Cœur. Vous êtes un écrivain renommé, un écrivain récompensé par plusieurs prix, mais un écrivain sur le tard. Vous dites « J'avais un papa instituteur qui voulait que je fasse de longues études. Mon frère et moi avons fait les grandes écoles. L'écriture n'était pas envisageable, c'était un truc de saltimbanque, hors de la vie normale. » Longtemps, ça a été un truc que vous avez refoulé.
Oui, parce qu'encore une fois, moi je viens de cette école du mérite républicain. Il faut faire des études pour prendre l'ascenseur social, il faut faire des métiers sérieux avec des contrats de travail et il faut être protégé, la sécurité. Donc moi j'avais un père qui était mon maître d'école, vous voyez, à qui je disais monsieur et vous pendant les heures de cours, pendant toute ma scolarité. Donc voilà d'où je viens. Voilà. Je vivais dans le logement au-dessus de l'école, donc ma chambre donnait sur les peupliers de la cour de récréation. Voilà, ah oui, c'est ça mon background. Formaté. Donc j'ai obéi. Du coup l'écriture c'était compliqué, au point que par exemple, quand j'ai fait mon coming out, ça s'est très bien passé, mais quand j'ai expliqué,
fou,
quand j'ai
ça,
expliqué
ouais.
que j'étais écrivain, je me souviens du visage de ma mère en décomposition, se disant « c'est encore une de ces blagues, j'espère », et mon père se disant « là, ça y est, c'est le déshonneur sur la famille, enfin bon ». Donc ça a été très 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 difficile, oui, j'ai mis du temps à y aller, je savais que ça serait dur à faire avaler comme pilule. Oui.
Hier, on recevait Clara Luciani qui nous disait qu'elle, comme beaucoup d'artistes, les moments les plus créatifs étaient souvent consécutifs à soit une déception
rupture,
amoureuse,
ouais.
ou en tout cas un moment difficile. Vous confirmez, vous aussi, vous êtes un écrivain de la tristesse quelque part, enfin, que ça peut être la genèse, la tristesse.
En tout cas,
c'est
vrai que le chagrin, ça vous rend fécond, bizarrement, ça vous rend fertile, ça vous donne envie d'écrire. Et d'abord parce qu'il faut remplir la solitude, c'est un truc tout bête. Et puis parce que souvent, on écrit sur ça, sur les choses qui ratent, sur les histoires qui se passent pas bien, sinon c'est des contes de fées. Vous voyez, si je vous explique, papa, maman, ils font des enfants, alcool chic dans les prés, bon d'accord. Mais, et donc, on a besoin d'écrire sur les frustrations, les manques, les espoirs déçus, les élans arrêtés, etc. Donc, quand on les vit, c'est plus simple de les écrire, oui.
Il y a justement un espoir déçu dans votre vie récemment. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose d'important dans votre vie, mais à l'époque, vous aviez dit avoir beaucoup souffert de ça. C'était la polémique sur ce projet de nomination au consulat de Los Angeles. Volée de critiques qui vous ont paru extraordinairement violentes. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette réaction.
Oui,
en fait.
J'ai trouvé ça disproportionné.
Mais c'était Macron qui était visé.
Oui. J'ai bien compris que le projectile, c'était moi envoyé à la tête du président de la République, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé ça surtout disproportionné et je me disais, oh là là, mais les gens ont quand même un peu de temps à perdre pour parler d'un truc aussi inintéressant. C'était quand même une affaire de corne-cul. Et vous vous trouvez dans ce qu'on appelle en bon français maintenant un shitstorm. Et c'est vrai que c'est bizarre. Je souhaite ça à personne. Vous voyez ça. Quand ça vous arrive, vous dites « Ah oui, c'est pas sympa comme moment. » Bon, maintenant, je m'en fous. C'est passé. C'était il y a un an et demi.
Vous vous en foutez sur les critiques, mais est-ce que sur le poste, ça vous aurait plu? Ça aurait été un défi intéressant.
Je pense que j'aurais sans doute été utile. C'était ça, moi, mon truc. Je me disais, voilà, il se trouve que je connais extrêmement bien la Californie et Los Angeles. Il se trouve que les problématiques de ce consulat sont des problématiques essentiellement culturelles. Donc, mettre un écrivain dans un poste culturel n'était pas complètement absurde. Il y a une grande tradition d'écrivains diplomates en France, c'est d'ailleurs l'honneur de la France. Donc je trouvais ça pas complètement idiot. Visiblement, j'étais le seul à trouver ça pas idiot. Tout le monde a trouvé ça complètement débile. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Si ça veut pas, ça veut pas. Et puis passer à autre chose.
Vous le retrouvez dans 13 à table chez Pocket. Hein, ça cartonne. Eva, c'est en tête des ventes.
Exactement.
Même,
c'est pas cher et ça permet de donner 4 repas au Resto du Cœur par
exemple. Et en
plus,
c'est plus facile à lire qu'un roman dans le métro, par exemple.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Un quiz toujours astucieusement pensé et surtout présenté de manière très claire, comme hier avec Clara Luciani. Le principe est simple, je vous fais écouter des chansons d'illustres chanteuses françaises, mais je vais faire exploser une grenade qui va détruire les mots, il va falloir retrouver.
J'ai pas compris. Hein.
Bon, je sens qu'on va tout reprendre à zéro aujourd'hui. Philippe Besson, vous voyez ce que c'est, un vrai faux?
Oui.
Parfait, alors on est bien, voici un quiz sur les titres de romans, je vous en livre quelques-uns, à vous de me dire s'ils sont authentiques ou non. Vous jouez contre Eva Rock, c'est parti. Philippe Besson, voici le titre que je vous donne, « Et si les femmes pouvaient parler ?» Vrai ou faux titre de livre?
Je pense que c'est faux.
Oh, vous avez raison.
Ah, je vais dire vrai, moi.
C'est faux. Oui, ben, comme ça. Heureusement, la question ne vous était pas destinée. Là, donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied d'entrée. Eva Rock.
Oui.
Poème de terre.
C'est nul comme titre, on est d'accord. Hein.
Mais écoutez, imaginez qu'il existe.
Bah oui, bah on va dire qu'il existe. Tiens,
il existe.
Oui,
vous
oui.
êtes sûr, quelqu'un s'est dit un jeu de mots, poème de terre.
Bah c'est débile.
Il s'est dit,
mais...
on va publier. Il a trouvé un éditeur.
Oui,
il a trouvé un éditeur. Vrai titre. Le livre est de Olivier Douzou, sorti en 2012, et visiblement Nicolas Caro l'a lu.
Non, je l'ai pas lu, mais le titre me parlait. Je pense pas que ce soit un jeu de mots en fait. Je pense que le type a voulu parler de la terre et il s'est même pas rendu compte que ça faisait pomme de terre.
Mais oui, mais il écrit comme une patate.
Je sais pas, c'est sûr.
Oh non, le pauvre Philippe Besson.
Si vous voyez le mal partout.
Philippe Besson, attention. Le titre est le suivant. Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables? Vrai ou faux titre de livre?
Mon Dieu.
Il va regretter d'être venu, Philippe Besson.
J'espère que ça n'existe pas.
Vous l'espérez, oui. Pour la littérature,
oui,
au sens
large. Oui, c'est ça.
Mais pauvre littérature. C'est un vrai livre, Nicolas Caro.
C'est un vrai livre.
C'est un vrai
livre. C'est une référence à Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques.
Et donc, finalement, c'est un très bon livre, peut-être.
Ça, je ne l'ai pas lu, mais...
Eva Rock.
Oui.
Ma grand-mère m'a mordu. Vrai ou faux livre?
Non, je dirais un faux livre.
Faux livre. C'est-à-dire, oui, que là, avec quelqu'un en régie... qui prépare, ouais, ce quiz aurait pensé...
Oui, parce qu'il y a un livre genre pousse pas ma grand-mère dans les orties, là, tout
non.
ça.
Eh ben, vous avez faux. C'est un vrai livre, écrit par Audrenne en 2013. Le pitch, une grand-mère voulait regarder les chiffres et les lettres, mais Marcus voulait finir son film, elle l'a mordu pour récupérer la télécommande. Et oui, ça, c'est un pitch.
Ça, c'est un pitch.
Vous, Philippe Besson, qui avez fait beaucoup de scénarios, oui, vous savez reconnaître les bons pitchs.
Ah oui, là, tout de suite, on se dit, on voit le film, là.
Tout de suite, on contacte Netflix pour une production. Philippe Besson... Gérer un cabinet dentaire, la méthode Gengis Khan.
Non, ça n'existe pas, c'est sûr.
Ça existe.
Ah non.
Un vrai livre écrit par Michael R. Young en 2010. Enfin, Eva Rock, oui. Le frima des raviolis.
Oui.
Et non. C'est parfait, comme ça permet à Philippe Besson de remporter le quiz. Comme tous les jours, la tradition est respectée. Bravo, Philippe Besson. Philippe, en 2017, avec Arrête avec tes mensonges, vous racontiez votre première histoire d'amour. Vous découvriez l'autofiction, une révélation, mais qui débouche aussi paradoxalement sur un passage à vide. Vous dites, je me disais, c'est fini, je ne pourrais plus jamais écrire un roman. Quelle autre histoire pourrais-je raconter après ça? Et je n'ai pas écrit un mot pendant 6 mois, dites-vous. Qu'est-ce qui vous a relancé, finalement?
Alors, bizarrement, c'est de me lancer dans cette espèce d'aventure très étrange qui s'est appelé la campagne présidentielle, dans laquelle je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. Et
comment vous êtes arrivé là? Vous étiez
Emmanuel Macron.
J'ai même pas compris. Vous étiez ami avec Brigitte Macron.
Je connaissais Emmanuel et Brigitte Macron depuis quelques années. Et puis un jour, donc Emmanuel Macron me dit je vais me lancer dans la campagne présidentielle. Donc moi j'éclate de rire en me disant tout c'est une blague. C'est bien une caméra cachée. Et il me dit si c'est très sérieux et je pense que je vais gagner. Donc là je dis là ça devient vraiment
drôle. Où est la caméra?
Et du coup il me dit est-ce que tu veux venir dans l'aventure? Donc ça me paraissait tellement simple. Que je dis allons-y. Moi, dès qu'on propose un truc inédit et qui est un peu hors de l'ordinaire, ça m'intéresse.
Donc vous pensiez en fait chroniquer un truc
crash,
très flop.
Oui,
quoi.
Un crash, oui. Mais d'ailleurs, je lui avais dit c'est un peu terrible parce que je vais écrire et le livre ne sera pas publié parce qu'on écrit sur les gagnants, on n'écrit jamais sur les perdants. Bon. Et puis finalement, le livre est sorti parce qu'il a gagné. Mais je me suis lancé là-dedans et en fait, c'est ce livre-là qui m'a permis d'être capable d'être à nouveau devant un clavier et de mettre un mot après l'autre. Vraiment, je vous jure, c'est comme une espèce de rééducation. J'étais incapable d'écrire, mais vraiment. Donc, c'était une rééducation grâce à cette histoire qui, en plus, avait l'avantage d'être dans la réalité, mais totalement romanesque pour moi, parce que d'abord, la politique n'était pas mon domaine, et puis parce que je pensais vraiment que ça ne pouvait pas arriver. Donc, ça m'intéressait d'écrire un réel improbable. Et c'est comme ça que je suis revenu à l'écriture. Donc, c'est vraiment presque une thérapie, oui, ou une, je sais pas quoi, un truc comme ça.
Au sujet de ce livre, je devrais un personnage de roman, j'aimerais vous offrir une contradiction que je ne peux pas vous offrir, parce que vous aviez été critiqué à l'époque de la sortie de ce livre sur le fait qu'il y avait une connivence avec Emmanuel Macron et que vous, mais en même temps vous étiez son ami,
enfin, oui, c'est ça.
Vous écriviez pas en journaliste
Absolument, moi je suis pas journaliste du tout et en plus j'assumais d'emblée cette subjectivité dans le livre, c'est-à-dire je posais le décor dès le départ, donc j'ai pas trompé qui que ce soit, j'ai dit je le connaissais avant et j'expliquais justement que je ne voulais pas faire un ouvrage politique mais quelque chose qui racontait une épiphanie, un type qui s'invente un destin et qui fait l'histoire, quoi qu'on pense de lui, il a fait l'histoire, voilà.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et voilà donc pour cette tranche de bonne humeur et de découverte, l'équipe est sauvage qui revient bien sûr demain, 16h sur Europe 1, toujours en compagnie de Mathieu Noël, Eva Rock et des journalistes de la rédaction puisque la compétition va se poursuivre. La suite de votre dimanche sur Europe 1, le grand journal du soir, orchestré par Wendy Bouchard jusqu'à 20h. Excellente fin de journée avec nous.